Ils et par les champs, à la belle des victimes, marchaient les partisans. À la belle des victimes, marchaient les partisans.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé en direct mercredi 19 juillet 2000 de 18h à 21h, en différé jeudi 20 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
C'est beau.
Ah, c'est beau. Ça s'appelle comment? Vous pouvez le dire, vous, dans votre langue?
Ce sont des cloches de Hilandar.
Ah, Hilandar, voilà. Hilandar. C'est beau, hein?
Ce sont des cloches de Hilandar, le monastère serbe, qui était fondé il y a 800 ans.
La même chose, ouais. Il y a des cloches,
les carillons, c'est plus petit.
Les carillons, c'est des petites cloches, voilà. Les écoles sont pleines de carillons.
Qu'ils sonnent
bon,
faux.
Alors, le programme. Donc, vous avez entendu là, un petit morceau des cloches de Hilandar. D'abord, amis de la résistance, bonsoir. C'est Serge de Bekech qui vous parle. Victoria n'est pas là parce qu'elle est souffrante, la pauvre dame. On l'embrasse bien fort. Et on lui souhaite de se remettre rapidement. Et je reçois. Alors, je vais vous donner le programme de ce soir, puisque nous avons 3 heures à passer ensemble. Ça, les liaisons, c'est bien?
Oui, c'est des...
Alors, 3 heures à passer ensemble. Et au cours de ces 3 heures, nous recevrons Miodrag Jankovic, que vous connaissez maintenant puisqu'il est venu plusieurs fois à cette émission et qui est ambassadeur de la République Srpska en Bosnie. Enfin, c'est d'ailleurs en Bosnie d'ailleurs. Enfin, ex en Bosnie dans le temps.
Ex.
Voilà. Bosnie. Et qui revient de Serbie et qui va nous raconter un petit peu ce qu'il y a vu et les raisons pour lesquelles il y était. Ensuite, nous recevrons Alexandre Chabanis, que j'avais promis de faire venir. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Et pour essayer de tirer au clair exactement quelles sont ses intentions. Qu'est-ce qu'il veut faire? Un coup d'État?
La révolution,
voilà. une seule solution, la révolution. Également, alors j'ai oublié, accompagnant Miodrag Jankovic, Michel Blanzard, qui nous dira peut-être un mot de la Bulgarie.
Oh oui, mais en ce moment, je peux parler de la Bulgarie.
Ensuite, vous aurez la possibilité d'écouter un entretien de Cecilia avec Madame Nurizdani à propos de fleurs, ce qui sèmera la stupeur partout. Catherine Nurizdani, qui est journaliste et écrivain, et on vous parlera des jardiniers en herbe, c'est-à-dire de, en gros, la façon dont on peut donner aux enfants le goût de, du jardinage. Ensuite, nous recevrons M. Borde qui a écrit un livre sur une enquête qu'il a faite à propos de, après la destruction d'un avion d'Iran Air par les Américains. Et nous recevons le docteur Bruce qui a écrit un livre qui me paraît de circonstance, qui est toujours de circonstance d'ailleurs parce qu'il y a toujours eu des femmes de 60 ans. Il a donc consacré un livre à la femme de 60 ans, vu sous tous les aspects de la santé, de la forme, etc. Et elle sera accompagnée de Philippe Bobola, qui est docteur en physique. Ce qui est un métier qui m'a toujours étonné. Moi, comment est-ce qu'on peut faire un docteur? Oui, c'est un métier. Il paraît que ça existe, docteur en physique. C'est-à-dire que j'étais tellement nul en physique, moi, que j'aurais vraiment eu besoin d'un docteur. Parce qu'il faut au moins un docteur pour comprendre comment on peut être aussi nul dans une matière. Alors, Miodrag Jankovic, on vous a accueilli avec ce carillon de Hilandar. Voilà, comme ça, mais ouais. Il est content maintenant.
Il a eu son carillon. Merci beaucoup.
C'est une jolie façon de vous accueillir. Pourquoi étiez-vous en Serbie? Depuis quand d'abord n'étiez-vous pas retourné dans votre pays?
Oh, il y a un an, depuis le bombardement, je ne suis pas allé. Mais là, je suis allé avec son altesse royale, le prince Alexandre de Yougoslavie, qui vit à Paris. Donc, je suis le directeur de cabinet civil. Et nous sommes allés à Oplenac, au village de Karadjordjevic, qui se trouve 70 km au sud de Belgrade.
Voilà, les Karadjordjevic, il faut dire, c'est la famille royale de la Serbie.
Et je voulais justement faire une toute petite parenthèse qui est enterrée là-bas. C'est un mausolée, c'est une église, un mémorial, qui a été consacrée, construite par le roi Pierre Ier de Serbie, et finie dans les années 30 par son fils Alexandre, qui est décoré à l'intérieur par des très jolies mosaïques, et dans laquelle repose Karadjordje, le roi Pierre Ier de Serbie, roi Alexandre, assassiné à Marseille le 9 octobre 1934, et les autres membres de la famille royale, de la maison royale, et la famille de Karadjordjevic. Donc c'est un lieu saint, c'est un lieu historique, c'est un lieu, très haut lieu de la Serbie aujourd'hui, étant donné que nous sommes privés de Kosovo. Donc, si vous voulez, c'est un endroit mythique, d'autant plus qu'il se trouve à un endroit tellement joli, un endroit depuis lequel on peut voir la Serbie dans sa majesté, vraiment.
Et alors, vous êtes allé là-bas pour accompagner, comme on dit quand on est journaliste, dans son dernier voyage, le prince Stanislas.
Le prince Tomislav Karadjordjevic, qui était le dernier fils vivant de roi Alexandre, Karadjordjevic, donc. Et il a vécu 70 ans, 72 ans. Il est de 1928. Donc, il est mort à l'endroit même, donc il a choisi de vivre là-bas des 10 dernières années. Il voulait absolument vivre en Serbie, finir ses jours en Serbie. À l'endroit, dans le village de ses ancêtres, le village de Topola, pendant la première insurrection serbe, était le chef-lieu de l'insurrection. C'est là où habitait le Georges Lenoir, le grand guide, le grand chef des Serbes de cette première insurrection au temps de Napoléon, donc de 1804.
Donc cette mort de Tomislav, voilà. Je veux absolument que ce soit Stanislas. Donc cette mort de Tomislav met un terme à la lignée directe des Karadjordjevic.
Non, pas du tout. C'est-à-dire que ça ferme une parenthèse. Ça veut dire qu'il n'y a plus de Karadjordjevic qui vivent en Serbie actuellement. Mm-hmm. Parce que Tomislav était le fils de roi, donc très respecté par la population serbe.
Et il était resté là-bas pendant l'époque Titus.
Pendant 10 ans, il a demandé de revenir. On lui a permis d'habiter là-bas, dans la maison de son père, et donc dans laquelle il est mort. Et donc c'était l'occasion aussi de voir à l'endroit même toute la famille de Karadjordjevic réunie en deuil, n'est-ce pas? Étaient présents tous les enfants de Tomislav d'abord, ensuite l'enfant de son frère, le dernier roi de Yougoslavie, Pierre II, qui est mort en exil et qui repose actuellement aux États-Unis. Ensuite, le prince Alexandre de Londres, ensuite le prince Alexandre de Paris avec sa sœur Elisabeth, ensuite tous les enfants pratiquement de une vingtaine de Karadjordjevic à un seul endroit. C'était vraiment c'était rare, ça s'est jamais vu en Serbie, parce qu'après la guerre le pouvoir n'a jamais permis un enterrement à cet endroit-là. D'ailleurs, ils n'ont jamais permis le transfert des restes de ces
morts
de Pierre II ou de la mère de Pierre II, n'est-ce pas, la femme de roi Alexandre, la reine Marie. Ils n'ont jamais permis à la famille Karadjordjevic de...
C'est d'ailleurs assez étrange, cette terreur, cette véritable terreur que les régimes communistes, soi-disant populaires, ont des familles royales, parce qu'on a vu, et ça a continué après, on a vu la même chose en Albanie par exemple avec Leka, on a vu la même chose avec Siméon en Bulgarie, on voit la même chose en Roumanie avec Michel. On a l'impression que ces régimes qui sont les émanations de la démocratie, donc ils devraient avoir peur de rien, puisqu'ils sont assis sur la souveraineté populaire et sur la volonté du peuple, et la seule idée de voir arriver chez eux un prince du sang, ça les plonge dans des abîmes de d'inquiétude.
Ça c'est vrai, parce que
mystérieux, ça. C'est un peu comme quand on jette de l'eau bénite sur un démon, quoi.
Ils ont fait d'abord en Serbie, c'était net, Tito en arrivant au pouvoir déjà 29 novembre 1945 a interdit au Karadjordjevic de retourner au pays, et ils ont été déchus de la nationalité yougoslave. Donc tous les biens de Karadjordjevic étaient confisqués, et donc ils ont été obligés à s'exiler. Donc c'est un pouvoir des usurpateurs, c'est un pouvoir de soi-disant démocratie populaire, et c'est pas étonnant. Et c'est pas
si vous voulez parler, monsieur Chamet, parlez dans le micro, autrement on n'entend rien.
Démocratie populaire sans le peuple.
Ouais, voilà. Et donc si vous voulez, c'est tout à fait normal, étant donné quand on connaît un tout petit peu la pensée, l'idéologie qui les anime, c'est tout à fait normal qu'ils soient effrayés devant un prince de sang. Et d'ailleurs, on l'a vu à l'aéroport de Belgrade, en arrivant, il y avait un problème avec le prince Alexandre de Londres, il y avait un problème avec lui, il ne voulait pas montrer son passeport. Les policiers à l'aéroport l'ont retardé pendant une heure. Il est arrivé à l'enterrement de son oncle une heure après. Donc, pour vous décrire un peu la situation, les Serbes, le cœur de la Serbie est royaliste, ça c'est certain.
Vous croyez que
désespérément, c'est... je veux dire, désespérément, vu la situation dans laquelle la misère et l'état d'esprit dans lequel se trouve la Serbie, c'est désespérément, il y a un certain nombre de Serbes qui sont toujours royalistes.
Est-ce que vous croyez vraiment que c'est une hypothèse envisageable, la restauration d'une monarchie serbe?
Je ne pense pas que c'est envisageable tout de suite et par les moyens tels qu'on les voit aujourd'hui. Je pense qu'il faut d'abord procéder par un guérison des peuples, soigner des peuples d'abord de cette longue maladie communiste qui a sévi pendant 60 ans presque chez nous. Donc si vous voulez, c'est indispensable. Il est impossible à instaurer comme beaucoup de gens pensent aujourd'hui, la démocratie et la monarchie, et les monarchies dans les Balkans, pas seulement en Serbie, mais...
Moi j'ai l'impression que si c'est pour restaurer la démocratie qu'on installe la monarchie, c'est peut-être pas absolument indispensable de faire ce détour.
Je pense, quand je dis la démocratie, je pense vraiment à un état de droit.
L'état de droit.
Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, vous le savez, aujourd'hui nous avons dans les Balkans, après le passage de ces démocraties supersoniques qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique, aidée par l'Europe également, le mot démocratie est dévalorisé à tel point et les valeurs démocratiques, ça devient vraiment ridicule, parce que tous les pays qui se sont soi-disant libérés ou qui appartiennent, qui ont reçu l'aide de la communauté internationale, se trouvent aujourd'hui dans un état lamentable. Prenez par exemple le succès de la démocratie ou de la pacification de Bosnie-Herzégovine. Prenez l'exemple de la Croatie. Prenez l'exemple de Bulgarie ou par exemple le bienfait que fait la démocratie en Albanie. Donc c'est pas ça, c'est un état de droit.
D'abord. Mais on voit bien que tous les pays où ont été instaurés ce qu'ils appellent la démocratie, c'est tout simplement la possibilité pour la crapule de s'enrichir encore plus.
Tout à fait.
Et puis c'est tout.
On voit beaucoup de mafias dans les Balkans qui sévissent aussi bien en Serbie qu'en Kosovo actuellement, au Monténégro.
Mais la plupart du temps, ce ne sont pas plus des mafias albanaises que des mafias serbes, que des mafias bulgares, que des mafias russes, c'est autre chose.
C'est autre chose, c'est une nouvelle forme de cette vieille institution sicilienne.
Voilà. Ouais.
C'est tout à fait autre chose.
Mais qui, dont le noyau central n'est plus en Sicile, curieusement.
Non, pas du tout.
Ailleurs. Vous vouliez dire quelque chose, M. Chavanis?
Oui, je voulais dire quelque chose.
Dans le micro.
Je pense que ce qui se passe dans les pays de l'Est, il faudrait quand même faire une étude sérieuse et de la responsabilité de Gorbatchev, qui n'est pas le libérateur des pays de l'Est, mais qui a vendu les pays de l'Est. Il les a vendus au capital. Tant qu'on n'a pas compris le mécanisme Gorbatchev qui n'a rien libéré du tout, on ne comprendra pas ce qui se passe, la misère de ces pays-là. Tout a été vendu par Gorbatchev.
Je peux surenchérir là-dessus parce que venant de Bulgarie, ça commence à faire un petit moment que j'en suis revenu. Mais bon, les questions lourdes qui se posent, c'est par exemple l'entretien de Malte. On sait qu'il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là. On comprend.
Faut rappeler que l'entretien de Malte, c'était un entretien entre Bush et Gorbatchev
sur un bateau,
un jour de tempête effroyable.
Et à partir de là, il y a eu le nouveau partage du monde ou les nouvelles règles qui ont été fixées. Et encore une fois, les peuples ne sont pas du tout dans la confidence, et ont suivi peu de temps après tout un tas de guerres étranges qui d'ailleurs ne sont pas du tout finies et sont au contraire tout à fait réamorcées. Et ma théorie, qui est une vieille théorie qui ne va pas vous plaire forcément parce qu'elle va être teintée de langage marxisant, mais enfin bon, c'est une crise du capitalisme, c'est-à-dire que en gros, il s'agit pour les sociétés multinationales de se refaire, d'empêcher maintenant de les devises qu'elles ont droit. Oui, bon, la restructuration, c'était le sens de Perestroïka. On restructure les peuples en réalité, et on restructure aussi les richesses, c'est-à-dire qu'on les redistribue. Éventuellement, on redistribue les peuples d'un bout de la planète à l'autre, c'est-à-dire que maintenant, les transbahutements se font par centaines de milliers de personnes. Étrangement, ça n'intéresse pas grand monde dans la presse, alors qu'en réalité, les peuples sur place souffrent.
Parce que ça n'intéresse personne, parce que les propriétaires de la presse sont les mêmes qui organisent ces déplacements de peuple. Mais moi,
vous
je
êtes
vous le
propriétaire
dis.
De presse vous-même.
Non, moi, je suis pas propriétaire. Je suis propriétaire de rien du tout. Je parle des propriétaires, les gens qui contrôlent.
Oui.
Les grands médias sont ceux qui organisent les grands déplacements de circulation. Et comme on ne veut pas que ces grands déplacements de circulation soient connus, on les passe sous silence dans les médias. Et d'autre part, je termine, on les justifie. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce fameux système des mâchoires qui fait que d'une part, on nous explique que ça n'existe pas, et en parallèle on nous explique que c'est très bien. Si vous lisez, vous avez lu d'ailleurs mieux que moi encore les articles répétitifs et littéralement monomaniaques d'Attali dans Le Monde, dans Politique Internationale, surtout dans les journaux américains. D'ailleurs, les articles ne sont pas traduits en français, curieusement, dans lesquels il célèbre à longueur de page, les mérites de la société nomade, du mondialisme nomade. Donc, c'est des gens qui vous disent...
La fin du club chrétien.
Alors, c'est des gens qui vous disent, c'est très très bien d'être nomade, il faut que tout le monde soit partout chez lui, il faut que les grands mouvements de population...
Je crois qu'ils n'en comprennent pas les conséquences.
Ils en comprennent les conséquences. Ça fait tellement longtemps qu'ils le vivent que ça les gêne pas beaucoup. Et par conséquent, ils vous disent, c'est tout à fait normal que les gens circulent de pays en pays, qu'il n'y ait plus d'attache. Le nationalisme est un délire sanglant, comme dit ce crétin de Mélenchon, là, hier, dans la réunion...
Vous disiez Mélenchon-Cornichon,
c'est ça ? Oui, Mélenchon-Cornichon. Il explique que pas le nationalisme, c'est pire que ça. Les nationalités sont un délire sanglant. Ouais. Ça devient de la folie, leur truc. Ce sont des obsédés du nomadisme.
La destruction des peuples, les nationalités,
c'est la destruction des peuples. Voilà, ce sont des obsédés de la destruction des peuples, de la déculturation des peuples, de la mondialisation de la culture, de la prétendue culture. Véritablement, on est maintenant en état de résistance nécessaire. C'est pour ça, d'ailleurs, que je précise aux auditeurs qui pourraient s'étonner que j'accorde dans cette émission une si grande place à la Bulgarie, à la Serbie, qui sont des pays assez exotiques. Mais c'est parce qu'ils sont dans la même situation que nous.
Ils sont en première ligne dans la même guerre, et ceux qu'ils connaissent
aujourd'hui, ce drame de l'asservissement, du pillage organisé de leurs ressources, de la destruction de leur culture et du transfert de leurs élites. Je rappelle pas seulement de leurs élites, de leur peuple. Je rappelle quand même que aussi bien la Serbie que la Bulgarie sont des pays extraordinairement exportateurs. Ils sont pillés dans leurs ressources, ils sont pillés dans leurs individus, dans leur peuple. Sur 8 millions d'habitants, la Bulgarie a perdu 1 million de ses habitants au cours des 10 dernières années. Et je sais que la Serbie, c'est la même chose. N'importe quel Serbe aujourd'hui qui peut foutre le camp de son pays le fait.
Et toute proportion gardée, c'est comme s'il y avait 8 millions de Français qui étaient partis.
Voilà, c'est ça.
Mais ce qui est très intéressant, vous évoquiez tout à l'heure Gorbatchev. Moi, je me rappelle... Un des premiers voyages de Gorbatchev était à Belgrade également. C'est-à-dire que nous assistons à un phénomène mondial, sur l'échelle du monde entier, que l'idéologie que jusqu'au mur, qui a soi-disant existé officiellement jusqu'au mur de Berlin, la chute du mur de Berlin, cette idéologie, d'un seul coup, d'une façon absolument extraordinaire, magique, a décidé de voyager, à traverser l'océan, et habite les têtes de nouveaux maîtres du monde, des nouveaux maîtres du monde, avec les caractéristiques, c'est-à-dire avec exactement la même teneur, c'est-à-dire la même... pensée unique, c'est la même pensée unique, parce que nous qui sommes nés dans un pays totalitaire comme c'est mon cas, je peux reconnaître, je veux dire, par exemple l'interdiction à la parole, ensuite la modification du discours, le vicieux qui...
Et vous croyez que ce sont les techniques qu'on emploie maintenant en Occident?
Regardez par exemple, simplement si on considère le phénomène de ce qu'on peut appeler la satanisation des Serbes.
Je sais qu'un grand auteur, Zinoviev, par exemple, prétend que l'essentiel du mal communiste s'est transféré dans les sociétés de l'Ouest et que dorénavant, si on peut dire, les communistes...
Il faut dire qu'il ne s'est pas transféré.
Il était toujours,
parce que pendant que de l'autre côté du rideau de fer, vous aviez des Jdanov et Beria et Yezhov et les autres staliniens, Staline lui-même, mais de ce côté-là, en France, demandons-nous qui écrivait, qui témoignait réussite du système soviétique.
Il y a beaucoup de questions.
Mais il y a une chose qu'on peut dire à propos... Pardon, Michel. Tout récemment, enfin, il y a quelques années, je me souviens de Marchais disant, mais si un jour quand les communistes seront au pouvoir en France, n'importe qui pourra publier ce qu'il veut, à condition de trouver un éditeur. Mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et encore, c'est même pire aujourd'hui, parce que, vous prenez l'exemple de Renaud Camus, par exemple. Renaud Camus, il a fait un énorme bouquin, qui s'appelle Campagne de France, qui est, par certains aspects, remarquablement écrit, enfin, correctement écrit, disons, ce qui surprend maintenant, ça devient vraiment exceptionnel. Il est écrit à peu près en français, bon. Mais le contenu est quelque chose, c'est le fin fond de l'abjection pornographique. On peut pas descendre plus bas. Ouais. C'est ce mec qui est évidemment un détraqué, qui écrit des fantasmes de détraqué complet. Homosexuel, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. C'est l'homosexualité portée à son paroxysme d'ordure. Bon. Ouais. Eh bien, ce type a eu le malheur dans sa phrase de faire, dans son livre, de faire une toute petite incise dans laquelle il a dit qu'il aimait bien les paysages de France, qu'il aimait bien les chemins de France, qu'il aimait bien les gens d'origine, qui avaient une origine. Bon. Une origine, dit-il. Avoir une origine, ça perd, c'est bien. Voilà. Les gens qui ont une origine, c'est bien. Voilà ce qu'il a osé dire. Monsieur Philippe Soler publie dans Marianne un article disant, ça c'est répugnant, ça s'appelle de l'antisémitisme convenable et c'est le plus dangereux. Voilà. Donc c'est naturellement c'est plus dangereux d'être un antisémite convenable que d'être un antisémite qui envoie les gens dans les camps de la mort. C'est après Monsieur Soler, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Bon. Mais, il avait trouvé un éditeur qui était faillard. Cet éditeur, quand il a vu le scandale qui était provoqué par le fait que cet écrivain Renaud Camus faisait allusion à une émission de radio dans laquelle il n'y avait que des Israélites qui avaient le droit à la parole, ça a provoqué un scandale. Quand il a vu ça, il a mis le livre au pilon. Et ensuite, il l'a réédité sous la pression des amis de M. Renaud Camus en supprimant les passages qui avaient été mis au pilon. Alors à ce moment-là, il y a eu des pressions de la part des amis, des ennemis de M. Renaud Camus, qui ont dit « Mais c'est absolument scandaleux de rééditer ce bouquin parce que vous allez le rééditer en laissant des blancs à la place des passages coupés, ce qui fait que vous nous accusez d'être des censeurs. » Autrement dit, on a le droit de censurer, mais on veut pas que ça soit su.
Mais c'est bon.
Durand a opposé une résistance qu'il considère lui-même comme héroïque, en disant « Non, je maintiens les Blancs ». C'est, on arrive à ce stade de délire, mais vous entendez bien, de délire total, où le fait d'accepter une censure, qui est une censure absolument illégale, qui ne s'appuie sur aucune décision de justice, simplement du terrorisme censeur. Le fait de se prosterner devant cet acte de censure terroriste, et de le faire en disant simplement « je vais garder en blanc la place des endroits censurés » devient un acte de courage. C'est vous dire à quel niveau on a mis la barre du courage dans notre pays maintenant.
Mais ça m'est arrivé exactement la même chose. M'est arrivé pour un roman dans les années 70 qui est édité à Belgrade. Mon rédacteur m'a appelé un jour à la rédaction, il m'a posé la question, il m'a dit, c'était au temps de Tito encore. Et il m'a dit « est-ce que tu voudrais que ce bouquin sorte ?» Ben, je dis « oui, évidemment ». Eh bien, il faut sortir ce chapitre. Et j'ai dit, mais c'est vraiment obligatoire. Oui, 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 sans cela, paf, c'est fini. Donc, nous, on avait l'habitude.
Mais c'est tout le temps maintenant. Ah oui, vous avez. Mais nous, on avait l'habitude. Tout le temps.
C'est pour ça que je dis depuis là. Depuis un an, Serge, je dis qu'il faut étudier le système de samizdat russe.
Oui, tout à fait. Le Libre Journal, c'est un samizdat d'une certaine manière. C'est exactement ça. J'ajoute qu'en France, récemment, il y a un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelle Le Livre de Sevilla. De Favilla, le
terrorisme intellectuel, c'est ça?
Oui, le terrorisme intellectuel. Chose extraordinaire que personne n'a dit, absolument personne n'a dit ça. L'éditeur du terrorisme intellectuel, pour publier le terrorisme intellectuel, a demandé la suppression d'un chapitre. C'est fabuleux.
Et l'auteur a accepté.
Bah, il a accepté, il a travaillé pendant 2 ans pour faire un bouquin, il est bien obligé, c'est son métier quand même. Faut bien que le bouquin sorte. Donc,
là, je pense que c'est vraiment intéressant si les gens ont le courage ou l'énergie d'aller voir justement dans les anciens pays de l'Est, d'aller voir directement les gens qui sont éduqués, leur parler, parce qu'il est temps vraiment de comprendre très très vite ce qui nous arrive avant.
Mais on va en parler.
C'est le sujet d'ailleurs. Ça prouve la même nature de phénomène.
Je parlais de Mélenchon tout à l'heure. Je voudrais parce que j'ai employé un mot sévère. Enfin, sévère, une appréciation de caractère clinique. Et je voudrais prouver ce que je dis, parce qu'il ne suffit pas de dire les choses en l'air comme ça. Alors, je vais vous lire une dépêche AFP. Le ministre délégué à l'enseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon, a affirmé dimanche que le souvenir de la rafle du Vel'd'Hiv, dont le jour anniversaire, le 16 juillet, vient d'être proclamé journée nationale, devait être celui d'une journée de deuil et de honte pour les Français. Première chose. Voilà. Moi, je vois pas d'ailleurs, étant né en 1946, en quoi je pourrais avoir du deuil et de la honte pour un truc, j'ai absolument rien à faire. J'étais pas au Vel'd'Hiv, ni parmi les visiteurs, ni parmi les transporteurs. Bon. Alors, de ce crime, ajoute Mélenchon. Il faut que je précise d'ailleurs que Mélenchon, il est très très bien placé pour donner des leçons de morale. C'est un ancien du parti de la secte trotskiste-lambertiste, du parti communiste internationaliste. Alors, on voit à peu près le genre de démocrate sourcilleux que ça peut être, ce bonhomme-là. Tout, moi, ça me fait bien rigoler d'entendre ces, de voir ces gens qui ont été les complices de l'imposture la plus sanglante du millénaire. L'imposture communiste, marxiste, trotskiste et socialiste. L'imposture qui a donné naissance à des Staline, à des Lénine, à des Staline, à des Mao Tse-Tung, à des Ceausescu.
Et
à tout le mal que ce XXe siècle a connu. Ouais. Vous avez des gens qui ont pas parlé. Encore un communiste en 17, on pouvait comprendre que poussé par la misère. Mais eux, c'était. Il est né en 50, Mélenchon. C'est-à-dire que quand il a commencé à comprendre quelque chose à son univers, c'est-à-dire pas grand-chose d'ailleurs, on était déjà en 66, 67, 68. Plus personne ne croyait au communisme. Tout le monde savait, enfin, plus personne doté d'un cerveau. Tout le monde savait que le communisme était un fleuve de sang. Eh bien, ce type, il adhère au parti communiste internationaliste. C'est incroyable. Et 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, il vient et dit, je vais vous expliquer ce que c'est que la démocratie. Mais mon mémel, on n'a pas attendu que tu sois là pour savoir ce que c'est que la démocratie. Effectivement, si la démocratie permet à des gens comme toi d'être ministre, alors c'est vraiment le régime de merde dans toute son horreur. Alors il ajoute, mémel, de ce crime, aucune... Écoutez bien, c'est hallucinant. Aucune génération de Français ne doit se sentir indemne.
Ah non, moi je suis indemne.
Oh, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Mélenchon.
Il ajoute, Mélenchon pas tout.
Mélenchon pas tout.
Il ajoute. Alors attendez, parce que vous avez bien entendu ce que je veux dire. De ce crime, aucune génération de Français ne doit se sentir indemne. Et juste derrière, il ajoute. Tous sont coupables et tous sont Français pour notre honte. Et ensuite il dit... Alors là, ça devient complètement fabuleux. Ensuite, il dit, il ne faut pas confondre un seul instant les autorités de fait moralement faillies qui sont à l'origine de ce déni de justice, ni leur misérable cohorte d'exécutants avec la France à laquelle nous adhérons. C'est un propos de crétin. Il dit, on est tous coupables, on a tous participé à ça, on ne doit pas se sentir indemne, mais ceux qui ont fait ça n'ont rien à voir avec nous.
C'est absolument extraordinaire.
Il y a un mot qu'il faut reprendre, parce que Serge, qui résume un peu tout ceci, on va parler un tout petit peu de sémantique, parce qu'il faut en faire, la désinformation c'est aussi un principe de sémantique, c'est que à l'heure actuelle, les dirigeants français, et celui-ci par exemple, ne font plus actes de repentance, c'est des actes d'allégeance. Ce qui est grave pour nos peuples, et ce qu'il faut employer, le mot qu'il faut employer à l'heure actuelle pour Chirac, pour ces gens-là, c'est que ces gens-là font allégeance. On fait allégeance à tout ce qui n'est pas français, et tout ce qui peut détruire la mémoire du peuple français. Si des gens ont commis des délits, ils ont commis des délits, on les poursuit un temps, mais on poursuit pas leurs enfants. Eh bien, à l'heure actuelle, il y a une mémoire supérieure qui veut que l'on poursuive les enfants de France. Au nom de quoi? Au nom de quelle vérité éternelle? Que M. Mélenchon nous dise, au nom de quelle vérité éternelle, les enfants de France vont-ils payer pour des crimes qu'ils n'ont pas commis? Que M. Mélenchon nous le dise.
Oui, oh, je préfère qu'il se taise, Mélenchon, il en dit déjà beaucoup. Alors, on va revenir sur Tomislav, parce que on a l'air de... Enfin, ça a l'air d'être décousu, mais moi, je trouve pas du tout que
non,
c'est
mais
décousu,
tout est lié,
parce que tout ça appartient
tout
et puis, à la même démarche.
L'idée d'attaquer les maisons royales, comme ça se produit aussi en Bulgarie, sont des choses liées. Il y a des attaques sans précédent, hein, je tiens à le dire, des milieux d'affaires, parce que la Bulgarie est en train de craquer actuellement sur le tsar, qui n'est Siméon II. Donc, à mon avis, par rapport à la maison serbes qui les attaques devraient se produire prochainement.
Ben, si vous voulez, il n'y a pas d'alliés. À l'intérieur, et ça nous avons vu dimanche, se trouve un régime anachronique qui songe à renouveler avec l'autogestion, avec non-alignement, avec des...
C'est-à-dire Milosevic est en train de reprendre les vieilles lunes
titistes. Oui. Donc c'est un rêve absolument d'un côté, un rêve des gauchistes qui peut paraître un peu anachronique, mais il ne faut jamais dire ça avec ce genre d'idéologie. C'est jamais anachronique, c'est toujours dirigé contre les mêmes, c'est-à-dire contre la population. Et de l'autre côté, à l'Occident, ou ailleurs dans le monde, nous voyons bien ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune autorité morale, aucun axe de stabilité, d'exemple ou de il n'y a aucune volonté exprimée jusqu'à présent à arriver à la paix. Nous savons que les Balkans sont voués à une expérimentation continue. Nous pouvons nous attendre à la nouvelle guerre.
Les Balkans, c'est-à-dire tous les pays, c'est-à-dire la Grèce, autant que la Bulgarie.
C'est-à-dire que le travail dans les Balkans n'est pas fini. N'est pas fini pour les Américains ni pour leur vallée européenne.
Le drame, si j'ose dire, parce que vous, le drame, vous le connaissez dans les Balkans, mais la preuve qu'on va connaître ce drame, nous, en Europe, c'est que Michel Blanza a retrouvé pour le Libre Journal un texte. Enfin, une citation de Madame Geneviève Tabouy. Alors, Madame Geneviève Tabouy, c'était pas la pythonisse, elle savait pas tout, mais elle disait en 1930 à peu près.
C'était en 28, je suis pas du tout sûr, mais c'était. Voilà.
En tout cas,
avant la création de la SDN, en tout cas. Non, c'était au tout début de la création de la SDN, les politiques qui s'agitaient dans les couloirs de la SDN avaient un mot d'ordre, avaient une phrase, c'est « il faut balkaniser l'Europe ».
Voilà.
C'est-à-dire qu'il faut la morceler.
Donc c'était en 28, autrement dit, ça fait 72 ans,
je suis pas sûr de la date,
hein. Au moins, mais en tout cas, c'est ça 28. Hein.
C'est dans cette zone-là, oui.
En tout cas, ça fait 80 ans, en gros, pour simplifier, au moins 80 ans, et probablement plus longtemps que ça, que les mêmes, c'est-à-dire les gens qui étaient les patrons de la SDN à l'époque, qui contrôlaient la SDN en sous-main, et qui depuis contrôlent absolument toutes les organisations internationales en sous-main, les mêmes nous disent la même chose.
Oui, morceler, diviser pour régler, en réalité, c'est connu.
Et ça marche encore aujourd'hui, puisque là, il y a un message qui n'a rien à voir, mais qui dit la même chose, qui dit, à propos de Chabanis, on en parlera tout à l'heure, est-ce que les projets de M. Chabanis ne s'opposent pas à un phénomène qu'on voit monter en ce moment, qui est le phénomène de la région? C'est exactement la même chose. Ben, la régionalisation, c'est une façon de balkaniser.
La constitution, le changement de constitutionnel effectué à Belgrade la semaine, il y a 10 jours, même pas une semaine, sont l'exemple même. Ça veut dire que c'est le modèle de la constitution. Milosevic vient de changer sa propre constitution, de la troisième Yougoslavie, et c'est le modèle qu'il a pris, c'est la fédération croato-musulmane qui n'a jamais marché. Ça veut dire le canton.
Oui, mais ça c'est parce que Milosevic, il faut le dire quand même avec force, il faut le répéter.
Voilà.
Milosevic, contrairement à ce que tout le monde vous répète sur les radios, les télévisions et dans les journaux, n'est pas l'ennemi des Américains, c'est le pantin, c'est la marionnette
tout
du pouvoir américain.
Absolument.
Ils l'utilisent, comme ils ont utilisé en son temps Saddam Hussein, en l'envoyant, quand ils en ont eu marre, ils lui ont dit « Allez donc attaquer le Koweït, nous on s'en occupe pas, ça ne regarde
fait,
pas, et moyennant quoi, ils lui ont triqué. » Voilà.
Tout à fait.
Avec Milosevic, exactement la même chose.
C'est la promotion de l'OTAN dans les Balkans.
Et vous avez un plan extrêmement cohérent qu'on a raconté dans le Libre Journal de division de l'Europe en unités administratives, les NUTS, la nomenclature unité territoriale statistique, qui est de diviser aussi bien la France que tous les pays européens, et c'est la Yougoslavie est maintenant sur ce schéma, comme tous les pays européens.
Et c'est pour ça, par exemple, que en Albanie,
plastiquer les nations.
La monnaie albanaise aujourd'hui, c'est le mark.
Il va y avoir des problèmes par rapport au mark, par exemple, parce que l'indexation sur le mark et l'essentiel des pays des Balkans ne marche pas, puisque c'est entièrement fictif. Donc, aux alentours de septembre, il y a des pays qui vont avoir de très très sérieux problèmes, parce que ça fait pour toujours la Bulgarie, par exemple, l'indexation sur le mark ne correspond à rien. Alors vous voyez très bien les écarts que ça...
ça correspond à rien, mais ça crée une arme formidable pour affamer un peuple, c'est évident.
Mais Soros fait
dans
partie
un peuple
de gens
où les mécanismes normaux sont des mécanismes inflationnistes, si vous fixez la monnaie de référence à partir d'une monnaie qui est solide et qui ne subit aucune inflation, vous provoquez des ruptures, des déchirements sociaux qui sont absolument insupportables. Et c'est ce qui est en train de se produire en Bulgarie, ce qui probablement est en train de se produire en Serbie aussi. Alors j'ai beaucoup de demande pour le chapitre de Jean Sévillia, mais je ne le connais pas, le chapitre. Je sais qu'il y a un chapitre qui a été supprimé à la demande de l'éditeur, mais il n'est pas, évidemment pas disponible puisqu'il a été supprimé. Donc ne me demandez pas de vous en envoyer des photocopies, je n'en ai pas, bien sûr. Et quand bien même j'en aurais, je ne peux pas le faire puisqu'il ne m'appartient pas. Voilà.
Puis-je faire une petite note sur la régionalisation? J'ai un texte là, mais je l'avais pas prévu, mais c'est vraiment que cet auditeur. J'avais créé la Ligue des droits et devoirs de l'homme. On parle beaucoup de devoirs, et j'avais créé la Ligue des droits et devoirs de l'homme. On avait été reçu par Fontaine du Monde à cette époque-là. On avait fait pas mal de colloques. Et je disais ceci en ce qui concerne la Révolution. Ce qui était extraordinaire dans la Révolution, c'est que les hommes qui avaient proclamé la Révolution s'appuyaient sur le culte de la raison. Et ce qui est extraordinaire dans la Révolution, il faut en rire quand même, c'est que ces hommes qui avaient proclamé le culte de la raison se sont tous auto-détruits. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 ans, Robespierre a tué Danton, Danton s'est fait tuer par un tel. En fait, tous ces gens-là sont morts au nom du culte de la raison. Première chose, la raison était bien faible. Deuxième chose, j'écrivais ceci. Mais à cette perte de raison personnelle, parce que c'était une perte de raison, s'en ajoute une autre plus monstrueuse dans sa finalité, puisqu'elle porte atteinte à l'identité, et c'est écrit en 79, puisqu'elle porte atteinte à l'identité du peuple français dans son ensemble, le morcellement de la France en départements est le premier acte de collectivisation de la société, donc des hommes et des communautés qui la composent, premier arbitraire de droit collectif. 2 siècles plus tard, les feux de l'actualité mettent, et c'est écrit en 79, messieurs, les feux de l'actualité mettent en lumière les conséquences de cet arbitraire. La région devient le premier centre de préoccupation des hommes politiques. Une question née. Mais pourquoi avoir essayé de la détruire si, comme l'affirment les sociologues, elle était le cadre privilégié de la vie sociale propre à chacune des communautés composant le pays de France, toutes tendances confondues? Faut-il croire qu'hier, elle ne l'était pas?
Ben, je crois que ça, c'est une bonne question, mais je crois que ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'il existait une structure qui s'appelait la province. Les provinces étaient des structures traditionnelles qui fonctionnaient très bien. La Révolution les a détruites pour les remplacer par des départements. Et il se trouve que ces départements, en 2 siècles, ils ont fini par devenir des entités territoriales fonctionnelles aussi. Ça, au début, ça représentait rien d'autre que du saucissonnage de province. Mais à force, ça finit par exister. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut détruire ces départements, il faut les nier, les départements, pour fabriquer des régions. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a une structure qui commence à fonctionner et à permettre une normale expression des aspirations et des souverainetés populaires, eh bien, ils ont détruit cette structure pour la remplacer par une autre qui va mettre encore 200 ou 300 ans à prendre corps. Alors peut-être que dans 200 ou 300 ans, les régions européennes, elles auront une existence. À ce moment-là, ils les casseront et ils n'attendront pas jusque-là pour faire autre chose. Je crois que c'est la preuve, ça, du nomadisme intellectuel, du nomadisme politique, du nomadisme des idées qui est en train de s'installer dans notre pays. Pas seulement dans notre pays, mais dans nos civilisations.
Non, d'une permanente fuite en avant.
En 1789, on oppose le département à la région pour des raisons structurelles. La Révolution détruit la région, dont la Bretagne, dont la Provence. Donc on crée des départements pour détruire l'entité provinciale, tandis que les peuples qui vivaient dans ces entités. Et ensuite, 200 ans après, les mêmes hommes vous disent la région c'est la panacée. Eh bien moi je dis la province de France est toujours la panacée et ils ne nous apprennent rien. On a toujours été cohérents.
Les régions ne recoupent pas les provinces.
Voilà, les régions ne recoupent pas les provinces.
Pas plus que les départements.
Voilà,
la monstruosité de ça.
Et c'est là où en effet on rentre dans le structuralisme. Quand même il faut en parler. C'est la région telle qu'elle est constituée n'est pas une région avec une identité culturelle profonde. Elle est liée au structuralisme. Elle est liée pour détruire la nation, pour détruire même l'Europe. Voilà.
Alors un auditeur nous dit, comment peut-on encore attacher de l'importance à ce que disent ou pensent ces débiles mentaux de gauche? Ben on peut, parce que ces débiles mentaux sont au pouvoir.
Ils ont le pouvoir.
C'est eux qui font les choses.
Voilà. Ça c'est important de dire ça.
Et alors je vous redonne la parole tout de suite, Miodrag Jankovic, oui. Sur parce qu'il faut quand même en finir, si j'ose dire, avec Tomislav et son rôle.
Bon.
Je réponds aux questions en vrac. On a pu entendre le nom de Beketch lors de la très belle émission sur Goscinny sur Arte. Était-ce-vous? Oui, c'était tout à fait moi.
Tiens.
Je trouve que l'émission était intéressante, mais elle était, comme de bien entendu, extraordinairement menteuse. Car quand j'ai entendu s'exprimer certains de ceux qui avaient été de véritables animateur et créateur d'un tribunal populaire qui avait jugé et condamné Goscinny en 68 comme si on avait été en Chine, et que je les ai entendus dire « Ah, mais il était sensible, moi j'aurais pas cru qu'il était sensible à ce point-là, autrement, non. » J'avais vraiment envie de bondir, parce que ça a été un véritable assassinat intellectuel qui a été perpétré. Et Goscinny ne s'en est jamais remis. C'est un homme qui était effectivement d'une sensibilité extraordinaire, et il a été brisé, parce que c'était des gens qu'il avait portés, qui étaient rien, c'était des dessinateurs, des scénaristes, personne ne s'occupait d'eux, puis ils n'intéressaient personne, et Goscinny leur a donné un statut social formidable, il en a fait des vedettes, et ils l'ont remercié en le traitant exactement comme on traitait les têtes de chiens ou les traîtres à la cause populaire dans les tribunaux populaires chinois. Il fallait voir ces scènes qu'il y a eu d'injures, de revendications scandaleuses. J'avais dit d'ailleurs à cette époque-là, mais quand on est en face d'un tuberculeux, on lui crache pas sa fumée de cigarette dans les poumons. Vous n'aviez pas le droit de lui parler sur ce ton. Alors quand après on les entend dire « Ah, mais Goscinny était un type formidable, etc. » On voit bien l'hypocrisie de ce système. Voilà. Un jour, peut-être qu'on essaiera de faire une émission autour de Goscinny.
Oui.
À propos de la journée de deuil de Mélenchon, Mélenchon pas tout, bien entendu, un auditeur nous recommande l'ouvrage de Joseph Joffaut, intitulé « Un sac de billes », qui, nous dit-il, est un récit dont l'authenticité a été vérifiée, ça, j'en suis un petit peu moins sûr que lui, mais enfin, s'il l'a dit, « Les aventures d'un enfant juif sous l'occupation, c'est à l'opposé des théories de repentance qui ont actuellement cours. » c'est à peu près tout, non? Tout ce qui concerne, en tout cas. Non, Anne Brassier nous fait remarquer qu'un cas de censure sur lequel on a fait beaucoup de gloses, nous rappelle un cas de censure sur lequel on a fait beaucoup de gloses ces temps-ci, c'est l'affaire du roman qu'avait commencé à publier Le Figaro, roman bâti par Madame Chandernagor sur l'affaire la disparition de la famille du docteur Godard. Et la famille du docteur, enfin, les proches de cette famille ont porté plainte et ont obtenu l'interdiction de la poursuite de ce feuilleton. Et Anne dit, est-ce que la famille n'aurait pas droit au respect de sa souffrance? Bien sûr, mais je crois que ça, c'est une pure et simple provocation, parce que si Mme Chandernagor avait envie d'écrire un roman là-dessus, elle pouvait très bien appeler la famille du docteur Godard, la famille du docteur Tartampion, et puis, ou du notaire Tartampion, et puis c'était fini, personne ne se serait ému de ça. Donc il s'agissait de provoquer un petit scandale et de démontrer que on était dans un cas de censure et que décidément l'ordre moral continue à régner dans ce pays. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Moi, ça me frappe pas beaucoup. Alors, sur Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal de votre serviteur Serge de Bekech, qui reçoit pour l'instant Miodrag Jankovic à propos d'un voyage en Serbie. Donc, revenons à ce voyage. On a beaucoup divagué. On a été nomades, nous aussi. Quelle est votre impression alors de la situation actuelle du pays? Comment voyez-vous, d'une part, les prochaines semaines, les prochains mois? À long terme, c'est très difficile de dire quoi que ce soit, mais est-ce que vous croyez que la situation va continuer à se dégrader?
Certainement.
Et est-ce que vous croyez, et je reviens à cette question qui me paraît importante, que la solution, le recours à la monarchie est une voie possible? Peut-être pas politiquement, mais au moins culturellement et psychologiquement pour le peuple serbe.
Certainement, c'est-à-dire ça, c'est une solution pour sauver l'âme. Le Serbe était toujours monarchiste, ça veut dire croyait toujours que la vie est meilleure dans un royaume que dans un autre système. Malheureusement, comme vous le savez, déjà en 1934. Le roi a été assassiné à Marseille lors d'une visite officielle en France. Et ce rêve yougoslave, en même temps, s'est brisé, déjà, à l'époque. Il a montré son vrai visage pendant la guerre qui a permis le nouveau massacre, donc après ce massacre de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre a pratiquement achevé tout ce qui a été jeune et porteur d'espoir en Serbie. Ensuite, les communistes sont arrivés au pouvoir avec l'aide de l'Angleterre et avec l'aide de l'armée rouge, évidemment. ils nous ont libérés, entre guillemets, et plongés dans un monde de la pensée unique, qui n'arrête pas de durer. Et ce monde s'est transformé il y a 10 ans, il a pris un autre manteau, qui s'appelle socialisme, ou je sais pas comment il appelle ça.
Démocratie.
Démocratie, qui est un... Comme dit Eugénie, c'est un juste titre, c'est-à-dire c'est un, une partie de meule, c'est-à-dire c'est un, nous sommes le grain entre les meules. C'est-à-dire que d'un côté, de, en bas, vous avez vos propres socialistes ou communistes qui vous broient, hein, et d'en haut, vous avez des avions, M. Clinton, et toute la communauté internationale avec les inventions les plus récentes et les plus folles. Donc on ne permet pas à ce peuple de vivre normalement. Je ne crois pas que la crise dans les Balkans, des Balkans est finie. Je suis même prêt à croire que ça va en se dégradant. Ils ont créé de nouveaux problèmes qu'ils ne pourront jamais résoudre. Mm-hmm. Le problème de Macédoine, le problème de Monténégro, le problème de Vojvodine, déjà on parle de...
Ou de l'endettement, de ce, tout simplement.
Et l'endettement. Mm-hmm. Et ensuite, la, le niveau de vie de gens en Serbie est tellement bas. Aujourd'hui, un ingénieur, son salaire, il est de 300, 400 francs.
C'est général dans tous les Balkans, même les pays qui ne sont pas
donc,
en guerre.
Donc, je ne vois pas comment ça peut se résoudre et comment ça va aller. Donc, tout le monde dit que l'opposition doit amener la démocratie. Mais quelle démocratie? Sur quel modèle de démocratie? Est-ce que c'est cette démocratie que M. Clinton a, je veux dire, il a fait la publicité à Crane Montana en faisant la chaîne humaine avec ses adeptes, etc.
De toute façon, en Serbie aujourd'hui, quel que soit le changement de pouvoir, dans la situation actuelle d'un pays dont une des provinces est occupé,
oui.
Ça ne peut être que, quel que soit le gouvernement, ça ne peut pour être qu'un gouvernement de collaboration.
Exactement. Donc, pour, oui. Pour simplement souligner, parce que ça devient peut-être même trop, on ne se plaint pas, mais on doit constater qu'aujourd'hui, il y a 2 jours, la 84e église serbe au Kosovo a été détruite par les mêmes, les Albanais. Donc... sous l'œil de...
Combien sont-ils ces Albanais au Kosovo?
Ah, il y a une chose très intéressante, vous faites me penser, c'est-à-dire que M. Kouchner, qui est un proconsul de la région chez nous, nous nous réjouissons, certainement il a des bonnes intentions, ne serait-ce que d'essayer de civiliser les gens avec lesquels nous avons vécu il y a pendant des siècles, notamment en l'occurrence des Albanais. Il a fait un recensement. Mm-hmm. La communauté internationale a compté les habitants de Kosovo. Les Serbes ont refusé d'être comptés. Mm-hmm. Mais parce qu'ils sont quoi? Ils sont 120 000 actuellement. Il y a 250 000 qui étaient expulsés depuis que les Nations Unies ont pris le contrôle sur le Kosovo. Donc... mais ce qui est très intéressant, et je trouve vraiment intéressant, c'est que ils ont trouvé seulement 860 000 Albanais sur place.
Vous vous rappelez des comptes au moment de la guerre?
Je ne sais plus. Moi,
parce que moi j'ai appris à l'école qu'il y avait 1 800 000 Albanais.
Oui, 1 800 000.
Alors, où sont les 1 million?
Mais c'est ceux que les Serbes ont massacrés, non?
Ah, certainement. Mais il faut des grands troupes pour mettre 1 million.
Donc vous voyez les mouvements, et ces mouvements d'Albanais, ça, hein. On peut les retrouver en Macédoine par exemple.
Ouais. C'est complètement faux, tout est faux. Les chiffres, on disait depuis le début, parce que personne n'a jamais réussi à compter, avoir un réel nombre des Albanais. Est-ce que vraiment cette liberté nouvelle retrouvée au Kosovo, comme ils disent, elle les incite au retour? Où le mouvement est que le contraire, c'est-à-dire d'émigrer plus facilement maintenant vers les boulevards périphériques de Paris. Ah oui, boulevard McDonald's, voilà. Et la porte Maillot. Ouais.
Merci, Miodrag Jankovic. Vous reviendrez nous parler de la situation de la Serbie, et Micha viendra continuer à parler dans le Libre Journal de la situation de la
Excellent
Bulgarie.
Journal, le Libre Journal écrit.
Excellent journal.
Merci, Serge de Bécache.
Je voudrais 4 places France List.
Oui, 4 places France List. Abonnement de 700 francs.
C'est très important de s'abonner.
Oui, c'est même vital.
C'est tout à fait vital. C'est-à-dire qu'on se bat avec des agrafeuses et des élastiques contre des organisations géantes.
Si seulement,
il faut quand même s'en rendre compte. Oui, les agrafeuses n'ont pas d'agrafe. Et bon, c'est pas grave, c'est ça ce que vous allez dire.
C'est ça. Oui, oui, c'est pas grave, du moment qu'on a deux pattes. Non, ce que je voudrais dire, c'est que, encore une fois, il faudrait bien comprendre que le travail que nous faisons, c'est un travail de contre-désinformation, c'est un travail de résistance à la désinformation. Et cette désinformation, elle est absolument effrayante dans la mesure où elle finit par prendre des chemins que nous-mêmes nous croyons des bons chemins. Je l'ai éprouvé encore ce week-end à l'occasion de l'Université d'été de Renaissance catholique, où j'ai fait une conférence sur la subversion par l'islam, et où j'ai tenu des propos qui ont choqué des auditeurs, parce que ce ne sont pas des propos convenus. C'est pas ce qu'on entend d'habitude, même chez nous, sur l'islam. Et je veux dire que si on n'arrive pas à se libérer des mécanismes, des automatismes de pensée, des automatismes de langage, on sera écrabouillé, on ne réussira à rien. Donc il faut bien comprendre que quand on parle de la Bulgarie, quand on parle de la Serbie, c'est pas par une espèce de commodité exotique pour parler de l'étranger, parce que c'est plus facile de parler de l'étranger que de la France.
Les choses sont liées.
Que ce sont des précipités, en quelque sorte, de situations que nous connaissons en France. En ce moment, en Bulgarie, il se passe d'une manière accélérée et précipitée ce qui se passe en France et ce qui va se passer en France. En Serbie, il s'est passé ce qui nous arrivera un jour. Je vous le garantis, quand on voit, par exemple, ce qui se passe en Espagne, qui ne correspond à rien de compréhensible, l'attitude de l'ETA est totalement incompréhensible politiquement. Personne ne peut porter une analyse raisonnable là-dessus. Eh bien, si on applique le schéma serbe à ce qui se passe en Espagne, on comprend beaucoup mieux. Il s'agit de prouver que la situation actuelle de l'Espagne, qui est un pays multiple, est une situation non viable. Il s'agit de démontrer que, de même que ça a été démontré, ou on a tenté de le démontrer en Serbie, de même qu'on a tenté de le démontrer en Grèce à travers l'assassinat du conseiller Sanders récemment, eh bien il s'agit de démontrer que l'État central est incapable de gérer la situation et que par conséquent il faut confier la gestion de cette situation à des structures supérieures, supranationales, mondiales, qui elles vont résoudre les problèmes tout simplement en jouant l'indépendance ou l'autonomie des régions. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça va arriver en France. Ça a foiré en France parce que véritablement, pour l'instant, ça foire parce que les indépendantistes bretons, par exemple, sont quand même la plus belle palanquée de crétins qu'on puisse imaginer. Ça, on peut pas rêver mieux, hein. Donc ça marche pas encore. Mais un jour ou l'autre, ça finira par marcher. Et il y aura la même chose dans d'autres provinces de France. On voit en Corse, ça y est, le processus est engagé. Je vous garantis qu'avant 5 ans, la Corse a un statut d'indépendance ou de quasi-indépendance. C'est certain, c'est absolument certain. Et ça se reproduira pour d'autres régions de France. Donc, quand on vous parle de la Serbie, quand on vous parle de la Bulgarie, quand on vous parle de la Grèce...
C'est l'occasion de mettre à plat des techniques qui sont adaptées chez nous aussi.
Comment fonctionne l'ennemi. Je ne dis pas l'adversaire, l'ennemi. Il s'agit d'un ennemi mortel qui nous combattra jusqu'à la mort et que nous devons combattre jusqu'à la mort. Voilà ce que je pense réellement. C'est ça qu'on appelle un combat de résistance. Merci Miodrag, merci Michel Blanza, et puis à bientôt.
Merci Serge. Merci beaucoup.
Docteur, vous avez, comme je vous l'ai dit, c'est le docteur Dor qui vient nous voir, et je lui ai promis 2 minutes pour nous dire ce qu'il faut faire, quand il faut le faire.
Alors c'est toujours dans la résistance, je dirais. Après tout, elle a plusieurs formes.
Bien sûr.
Et celle-là, évidemment... lutte contre l'adversaire, là, qui se découvre dans le massacre, bon, le plus ignoble qui soit, le plus incroyable. Alors, vous êtes invité très particulièrement, parce que nous avons la visite tout à fait remarquable de Mgr Rey, qui est un prélat new-yorkais, qui a créé une association. Avec cette association, il a pu, dans l'État de New York, mes informations sont exactes, fait fermer 43 centres d'avortement. L'accompagner, bien sûr, des fidèles, enfin, de toutes sortes de pro-life, mais aussi des cardinaux.
Qu'est-ce que vous venez de dire, là?
Des pro-life.
Quelle horreur!
Il faut le dire, des pro-vie, peut-être.
Des sauveteurs.
Les sauveteurs, ils ne sont pas rentrés dans les centres, je crois. Enfin, peu importe le terme, si vous voulez, sauveteurs, si vous voulez.
Bon, enfin, il y avait
des cardinaux et il y avait des évêques. Et c'est donc pour nous une leçon, un petit clin d'œil à la hiérarchie. Si un jour, ils vous voulaient venir de leur côté ou que nous allions avec eux ou qu'ils viennent avec nous.
T'as qu'à croire Grégoire, comme on disait.
Voilà, voilà. Et ce serait, alors là, je dirais vive les Américains. Alors le dernier contact que nous avons eu avec les Américains, alors sur le terrain, ça remonte à 1996. Nous étions rentrés dans un centre d'avortement, l'hôpital Maison Blanche de Reims, et il y avait là 5 Américains, dont un Italo-Américain, un colosse, très calme, très tout à fait charmant, qui est devenu séminariste, qui s'agenouillait pendant que nous étions dans le centre d'avortement. Il y avait là aussi la descendante d'une Micmac, c'est assez curieux, une Micmac, une Indienne, qui était les alliés des Français, catholiques, et luttait contre les Anglais. Ils avaient beaucoup d'avantages, ces Micmac. Donc là, voilà, alors c'était la dernière fois que les Américains sont venus avec nous. Donc là, ils reviennent sous la forme d'un monseigneur, d'un prélat, et je vous donne le rendez-vous. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est très proche, c'est samedi prochain, donc le 22 juillet, il y a une messe à 11h15 à Notre-Dame-du-Lys, 7 rue Blomet, dans le 15e arrondissement, métro Sèvres-le-Courbe, donc messe à 11h15, et ensuite la manifestation est prévue pour dans le voisinage de la clinique Jeanne d'Arc, mais très exactement à l'angle de la rue du Château des Rentiers, qui est assez longue, et de la rue Regnault. N'oubliez pas la rue Regnault, parce que la rue Regnault n'est pas très grande, la rue Chantier est très longue, il faut donc situer l'endroit où nous serons. Si je dis pas de bêtises, c'est métro Porte de Choisy, la plus proche. Là, ce sera à 14h. Voilà. Enfin, je sais que au mois de juillet, c'est pas nous qui avons choisi la date, c'est donc ce monseigneur, et nous n'aurions pas choisi exactement ça, mais c'est peut-être justement le moment pour tous ceux qui se trouvent là de se rassembler, de se retrouver et de rencontrer et de prier avec ce prélat.
Merci docteur. Alors répétez-nous le rendez-vous parce qu'il faut que nos auditeurs
le rendez-vous donc 11h15 Notre-Dame-du-Lys pour la messe.
Notre-Dame-du-Lys.
Et ensuite à 14h à rue du Château des Rentiers, au coin avec la rue Regnault.
Et c'est donc le
samedi 22 juillet.
Ça sera dans drôle 3 jours. Que l'évêque Reyes fasse embarquer par les pendours.
Alors j'oublie de dire, il y a une chose très importante. Bien sûr, la manifestation est déclarée. Demain, je signe donc la déclaration en accord avec la préfecture. Et alors, comme nous avons eu cette si bonne nouvelle, cet arrêt de la cour d'appel du 28 juin, eh bien, le préfet de Paris avait été jugé et condamné pour excès d'abus de pouvoir. Alors là, il semble bien que l'on s'oriente actuellement, tout au moins, mais il y aura peut-être une autre façon pour nos adversaires de contourner la chose. Eh bien, nous avons la possibilité de manifester en toute légalité. Donc, tout le monde doit venir, même les enfants, je pense. Il y a une forte protection policière. Je ne sais pas si on aura les gauchistes. Ça, je ne sais pas s'ils voudront, s'ils sont en vacances.
Qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Ils sont probablement en vacances. Merci, docteur.
Merci.
Bonsoir, docteur.
Alexandre Chabanis, ça fait un moment que les auditeurs me demandent de vous inviter un peu plus longuement pour faire plus qu'un point, pour faire le point sur votre initiative, et bien l'expliquer, bien la décortiquer pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, à quoi elle vise, quelles sont ses motivations, quels sont ses objectifs, quels sont ses moyens, et quelles sont ses finalités pratiques. Donc, on va aborder ça point par point. D'abord, je crois qu'il faudrait que vous nous disiez, parce que c'est quelque chose qui est assez peu connu, précisément qui vous êtes.
Mais je suis autodidacte, je fais partie d'une génération d'hommes, mon frère était écrivain de talent, moi-même je suis autodidacte, mais je suis un homme qui est créé par exemple par son travail les diplômes d'animateur culturel, et ils ont dont les diplômes de prévention, donc j'ai fait tous les travaux d'éducation qui existent ou dans le monde professionnel d'éducation. Je suis parti de professeur de maître auxiliaire d'éducation physique. Ensuite, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait tout ce qu'on appelle moniteur de colonie de vacances. Ensuite, je me suis lancé dans la prévention quand les diplômes n'existaient pas. J'ai créé des expériences de prévention où, en 3 ans, et la méthodologie était simple, en 3 ans, on mettait en place des équipes de prévention qui résorbaient l'ensemble de la délinquance d'un quartier. Et donc, on n'instituait pas la délinquance comme l'ont fait les socialistes. Et ma conception et la conception que je mettais en place, c'était de mettre en place des équipes d'animateurs et d'éducateurs qui, en 3 ans, résorbaient la délinquance et empêchaient qu'elle se renouvelle. À l'heure actuelle, on a institué un processus de sociologie qui fait que la délinquance est permanente, c'est la révolution permanente voulue par les socialistes, aussi bien en prévention qu'en matière d'éducation. Donc ensuite j'ai travaillé pas mal de temps sur les associations, donc je connais tous les principes associatifs. J'ai des associations comme la Ligue des droits et devoirs de l'homme, comme l'Association des droits publics de l'usager, comme Civilisation et Société, qui ont eu des grandes heures de gloire, puisque si on prend par exemple l'Association des droits publics des usagers, en 6 mois de temps, était reconnue par l'ensemble des partenaires sociaux, c'est-à-dire du service public, et était reconnue aussi par l'Académie des sciences morales et politiques, qui me décernait un prix. En matière sportive, je pense être un des meilleurs et peut-être le meilleur entraîneur de boxe qui existe sur l'Europe. J'ai une conception personnelle du sport de combat, j'ai une philosophie et une psychologie du sport de combat, ce qui fait qu'on se désespère jamais quand on a cette philosophie et cette psychologie du sport de combat. On en reparlera parce qu'il y a dans mon action, vous verrez qu'il y a des choses très terribles qui ont été mises en place pour la déstructuration mentale des individus et que ceci dure. Donc en 30 ans de travaux ininterrompus, j'ai écrit des journaux qui s'appelaient La Franchise. J'ai participé à un ensemble de colloques nationaux. J'ai participé au premier colloque Jeunesse et Sport et Prévention Globale en 67, où j'animais la commission Jeunesse et Sport et Prévention. J'ai travaillé avec 40 architectes sur des projets d'urbanisme. J'ai fait un peu tout ce que l'on peut faire dans les milieux éducatifs. À la suite de ça, je me suis lancé dans des problèmes beaucoup plus précis sur le plan du droit économique, et parce que je m'étais aperçu à un moment donné que tous les chefs d'entreprise et tous les grands économistes disaient, progressistes ou conservateurs, disaient que parler de l'entreprise, ça n'a jamais créé un droit de l'entreprise. Le grand malheur de la socialisation de l'entreprise en France, c'est que aucun homme de droite n'a créé un droit de l'entreprise qui empêche la spéculation sur l'entreprise. Alors ça faisait partie, et ça fait toujours partie, d'une vision générale de société où j'oppose l'économie d'entreprise, homme et matière, à l'économie de marché, qui est une économie spéculative dans sa finalité. Quand on a fait un peu le tour de ça, on pourra en parler longtemps, mais on en reparlera, je pense, dans une autre émission sur un point précis, je pense, le problème éducatif sur les banlieues. À partir de là, j'ai écrit en 79 un texte qui s'appelle « Pour une constitution de droit national », dans lequel, et je voudrais quand même attirer l'attention des auditeurs sur l'article qui est passé aujourd'hui dans « Pourquoi je vais venir à une constitution de droit national » qui s'appelle « Débat et opinion », page de Monsieur Max Clos, « L'impasse d'une souveraineté étriquée » avec Monsieur Guénaud. Et tout ce que dit Monsieur Guénaud, vous le retrouvez intégralement dans « Pour une constitution de droit national ». C'est-à-dire que Monsieur Guénaud n'a rien imaginé, ni Monsieur Max Clos. Mais ce qui est grave, dans le petit chapeau qui est mis en tête, et nous allons en reparler, parce que cet article est est arrivé alors que nous avions préparé l'émission, que j'avais préparé cette émission, que j'allais parler de la désinformation en ce qui concerne notre action sur les états généraux. Et ce qui est grave dans le chapeau qui est mis et qui nous ramène à notre action et qui va nous ramener au droit pour une constitution de droit national, il est dit ceci: cette prise de position montre bien que les frontières idéologiques deviennent de plus en plus mouvantes. C'est-à-dire que M. Guénot dit bien que la cohabitation a été le but de la dissolution et que le quinquennat, le référendum sur le quinquennat, c'est bien, ce n'est pas une opposition, c'est bien un principe cohabitationniste mis en place par la gauche. La gauche, M. Chirac est un homme de gauche, puisque je n'ai pas encore compris la différence qu'il y avait entre M. Chirac et M. Jospin. Il y en a qui s'amusent à faire des interviews là-dessus. Je ne comprends pas la différence qu'il existe. S'il y en a une, c'est-à-dire que M. Jospin est capable de faire à M. Chirac tout ce qu'il veut. Ce que ne peut pas faire, M. Chirac ne peut pas faire à M. Jospin ce qu'il veut. Par contre, M. Jospin, avec son appareil, l'appareil de l'international socialiste, peut faire à M. Chirac ce qu'il veut. M. Chirac n'est qu'un pion. Alors, pour une constitution de droit national, j'écrivais certaines choses, mais je reviens encore un tout petit peu, je vais sauter un peu du coq à l'âne, et je vais reprendre pour une constitution de droit national, mais il y a un problème qui est grave, qui est posé au niveau de l'abstention à l'heure actuelle. Aujourd'hui, les médias, les hommes politiques qui contrôlent la totalité des médias, et donc tous les mouvements d'opinion, constatent que si après on vient de retirer sa souveraineté au peuple français, ah donc il ne vote plus. Il dit, tiens, j'ai plus de souveraineté, puis tout d'un coup ce peuple dit, je ne vote plus. Alors l'abstention deviendra majoritaire. Alors, on va apparaître dans les médias une sémantique, une dialectique qui dit, si les gens ne votent plus, c'est que le peuple souverain n'est plus démocrate. Et que, donc, le peuple souverain, il met en danger, l'abstention met en danger la démocratie, en péril. En substance, ils énoncent... Qu'est-ce qui menace en France, à l'heure actuelle, la démocratie? Eh bien, je vous le mets dans le mille, vous le lirez à ce sujet du référendum, je vous donne, puisque tout va se passer comme ça. Qu'est-ce qui met en danger la démocratie à l'heure actuelle? Eh bien, c'est le peuple français souverain. Oui, il faut se le dire. Voilà. Alors, il est évident, comme je le disais, pour une constitution de droit national, si on avait voulu que le peuple vote, au lieu de lui donner les gadgets... de renouveler les gadgets tous les 5 ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans, et tout le monde s'engouffrant dans les gadgets qui sont donnés, il fallait simplement, comme je l'écrivais pour une constitution de droit national, il fallait dès l'instant où l'abstention allait prendre, on était certain que l'abstention, j'étais sûr qu'avec ces manipulations des hommes, l'abstention allait prendre cette tournure qu'elle prendra au moment du quinquennat. Je disais simplement, il faut reconnaître la vérité, ce qu'est le peuple français. Il faut lui donner, par rapport au droit national, il faut lui donner des articles de droit national qui représentent cette identité. Et je disais, un article de droit national précise et définit la permanence des réalités d'un peuple et redéfinit la fonction du vote en regard de ces réalités. Pourquoi il n'y a pas eu de référendum jusqu'à ce jour que des référendums bidons? Parce qu'on ne veut plus, on a commencé à détruire la réalité même du peuple français. C'est pour ça que vous assistez à toutes ces sémantiques, et nous allons en parler dans une autre période du document. D'autre part, j'expliquais que dans la notion de capital spéculatif comme dans la notion de société socialiste, l'État n'est plus le garant des différences composantes de la nation, groupes ou individus, et de leurs droits, devoirs individuels, collectifs et communs. L'État, dans une société de capital spéculatif, est créé en 79, est le garant de la gestion d'un contrat préétabli par un groupe ou un parti politique, économique, social. L'État n'est plus arbitre, l'État est parti. Peuple, nation, État, souveraineté, autorité ne s'exprime que dans le contrat créé par un groupe qui seul est porteur de la souveraineté, hommes et peuples, ne sont plus souverains, hommes et peuples. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hommes souverains. Hommes et peuples ne sont plus souverains, seul l'adhésion au contrat accorde la souveraineté. Et j'avais la réponse...
Ce dont se félicite Guillaume dans le Figaro, parce qu'il dit, il faut en finir avec ce qu'il appelle une souveraineté étriquée. Il suffit de définir la souveraineté comme étriquée, puis elle devient insupportable.
Voilà.
Donc, étriquée, ce qu'on décide être étriquée, la souveraineté est donc par essence étriquée, donc il faut en finir avec la souveraineté. Et c'est ce à quoi s'emploie le système cohabitationniste, hein, c'est clair, parce que là, effectivement, ils sont tout à fait d'accord sur ce principe, retirer la souveraineté au peuple, en disant que cette souveraineté conduit forcément à une rupture de la démocratie, puisque à partir du moment où on constate que le peuple s'abstient, ça veut dire qu'il refuse le débat démocratique, et s'il refuse le débat démocratique, il est contre la démocratie, et par conséquent, puisqu'il veut pas de la démocratie, eh bien, on va lui démontrer que c'est la seule solution en faisant de la démocratie en dehors de lui. C'est ce que disait Brecht, hein. Quand le peuple ne convient pas, il faut dissoudre le peuple.
Et ce qui est terrible, c'est que maintenant, et on le voit dans un journal comme Le Figaro, c'est maintenant, au niveau des médias, il y a une manipulation sur ce peuple. La dernière manipulation, j'expliquais dans un autre passage, puisque on continuera le schéma, à un moment donné, on s'aperçoit que les médias, le journal Le Monde et le journal Le Figaro se renvoient la balle, et c'est extraordinaire, parce que se renvoient la balle sur des thèmes communs pour, en fait, ça veut dire quoi? Pour museler toute resurgence intellectuelle, pour empêcher toute resurgence intellectuelle libre. C'est-à-dire que ces deux journaux, maintenant, arrivent à joindre leur conception psychologique et pédagogique de la manipulation des gens, et donc d'une partie des élites françaises, et on peut lire Le Figaro et Le Monde de la même manière, mais ce qui est beaucoup plus grave. Il y a une prospective à l'heure actuelle dans Le Figaro, comme cet article, l'impasse d'une souveraineté étriquée, fait par Monsieur Guénaud, et je vous dis que pour une constitution de droit national, j'ai écrit tout ça, mais à l'endroit. Monsieur Guénaud l'écrit à l'envers, c'est-à-dire qu'il part d'un inversé des valeurs pour parler de la souveraineté du peuple. Et le peuple est souverain, c'est pas moi qui l'ai décrété, c'est bien la République. Si Chabanis avait décrété que le peuple était souverain, vous pourriez dire que Chabanis est antidémocrate ou antirépublicain, mais ce n'est pas moi qui ai décrété la souveraineté du peuple, c'est 1789. Alors, partant de là, je voudrais quand même vous lire je vous demanderai aux éditeurs de me dire à qui appartient cette pensée écrite en 1792, s'il le trouve, je leur enverrai une documentation gratuite. C'est écrit en 1792. Le remède, il faut le rechercher au milieu de la nation, même qui a vu toutes ses habitudes bouleversées. Quel est le citoyen qui n'ait pas été dépouillé de son emploi? Regardez le bilan du socialisme. C'est écrit en 1992. Quel est le citoyen qui n'ait pas été dépouillé de son emploi? Regardez le bilan du socialisme en 15 ans, de 80 à 95. Privé de son État. Regardez ce qu'est devenu l'État.
Non, mais là, vous trichez, vous mélangez le texte avec des commentaires.
Alors, je vais lire le texte, d'accord.
Oui, parce que autrement, on ne comprend plus rien.
Le remède, il faut le rechercher au milieu de la nation, même qui a vu toutes ses habitudes bouleversées. Quel est le citoyen qui n'a pas été dépouillé de son emploi, privé de son État, blessé dans sa propriété, tourmenté jusque dans le secret de sa conscience? Quel est le droit légitime qui n'ait pas été proscrit ou l'obligation habituelle rompue? Ses principes sont ceux d'une licence qui ne laisse plus d'asile à la liberté, d'une corruption qui flétrit les mœurs et les lois. La guerre civile marchera sur les pas des troupes étrangères. Vous avez dedans, dans ce texte, écrit en 92, vous avez le bilan du socialisme en 15 ans sur l'emploi. Vous avez l'état de droit français, l'État français est devenu un État de droit socialiste. La collectivisation des outils de production en 81 avec les faillites que nous connaissons, dont celle du Crédit Lyonnais. La loi Guesso, tourmentée dans le secret de sa conscience. La loi Guesso qui empêche un Français de dire qu'il est Français. Mais la guerre civile marchera sur le pas des troupes étrangères. Mais quel est le vote qui vient de se passer à l'Assemblée nationale sur le droit de vote des étrangers? Alors ce constat sociologique fait en 1792 est identique à celui que l'on peut faire de nos jours. Mais il n'a pas été conclu par une action. Ce constat peut-il déterminer aujourd'hui, qu'on peut faire, et je peux le signer d'ailleurs ce constat, la convocation aujourd'hui d'États généraux, et dans quel contexte juridique peuvent être convoqués les États généraux en France? Alors, je dis, pour comprendre le contexte juridique dans lequel on peut convoquer les États généraux, c'est que tout simplement, en 1789, on a dit au peuple français, vous êtes souverain. Bon, ben c'est tout. On m'a dit, je suis souverain. Donc, Serge de Beckett comme moi, sommes des souverains. Donc, nous pouvons, en tant que citoyens français, étant souverains, appeler aux états généraux, puisqu'avant, les états généraux, tels qu'ils étaient constitués sous la monarchie, représentaient les trois ordres. Les trois ordres ont été dissous en tant que tels, et les états généraux, montant, étaient remplacés par le peuple, donc le peuple souverain.
Alors, oui, mais ce qu'il faut surtout dire, c'est que à partir du moment où ils décident que le peuple est souverain, étant donné que c'était le souverain avant qui convoquait les états généraux, c'est Louis XVI qui a convoqué les états généraux,
exactement.
Et bien aujourd'hui, le peuple souverain, il peut se convoquer lui-même.
Exactement. Exactement. Et la citation que nous avons mise avant démontre que nous sommes dans un état de déliquescence de l'État français. Et je vous dirai pourquoi nous pouvons convoquer.
Alors, il est de qui ce texte?
Ah non, je le dirai pas. Je le dirai à la fin si quelqu'un trouve.
Je
le dirai peut-être même pas.
J'ai déjà une proposition. Là.
Non, vous me le direz. Et je vous dirai bingo ou pas bingo.
D'accord.
Bon, il y a le contexte. Alors, le contexte. Aujourd'hui, dans quel cas les Français peuvent-ils convoquer les États généraux? Parce que c'est une question qui m'a été posée. Comment sur le plan juridique? Dans le cas. Nous pouvons convoquer, nous, Français, dans le cas où la citoyenneté française et la souveraineté qui la détermine est remise en cause, hormis un traité, parce que la Constitution permet s'il y a, en tête fait, article 55, permet qu'un traité mette en cause la souveraineté, par une loi ou un parti du peuple. Si, en effet, la citoyenneté et la souveraineté du peuple français, par une loi ou par une partie du peuple, est remise en cause au Parlement ou dans une assemblée, à ce moment-là, les citoyens peuvent appeler aux états généraux.
Alors, qu'est-ce qui remet en cause la souveraineté?
C'est exact, Serge, vous avez bien compris le processus juridique. Alors, il y a trois cas de figure qui sont extraordinaires, qui ne se sont jamais passés dans l'histoire de France. Trois cas de figure, la remise en cause de la souveraineté du peuple français par un pouvoir exécutif et législatif. Je ne parlerai pas d'Amsterdam ou de Maastricht. Le pouvoir législatif, dans trois cas bien précis, a remis en cause et ce, de manière définitive, en ce qui le concerne, le pouvoir législatif et exécutif a remis en cause la souveraineté du peuple français. Il a fait voter trois lois internes qui mettent en cause la souveraineté du peuple français. La première loi, qu'on a bien vite oubliée, c'est la loi sur l'auto-amnistie. Qui a autorisé dans la Constitution les partis politiques à détourner de l'argent du denier du peuple? Qui a autorisé les partis politiques à s'auto-amnistier de délits qu'ils avaient commis en tant que parti? Ce qui est beaucoup plus grave que d'avoir commis des délits en tant que particulier. En tant que parti, la Constitution ne leur donnait pas le droit de s'auto-amnistier. Il fallait qu'ils passent à la moulinette. Cette auto-amnistie, c'est une privation de la souveraineté populaire sur les deniers, sur l'impôt public. Deuxième cas de figure, le droit de vote des étrangers. Le droit de vote des étrangers a été voté par des membres de l'exécutif et des membres des partis politiques, et c'est une remise en cause et totale de la souveraineté française, c'est-à-dire de notre souveraineté individuelle et commune. Parce qu'aucun parti n'est mandaté, aucun parti, le pouvoir législatif français n'est pas mandaté par la Constitution pour voter des textes de loi limitant la souveraineté individuelle et commune du peuple français sur son sol. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, qui va, et nous allons en parler dans les actions que nous allons mener, va se terminer par une plainte que nous déposerons en septembre. Le troisième cas de figure est aussi grave. C'est la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice, et on l'a dit après que le procès se soit terminé, a confondu les deux pouvoirs, justice et pouvoir législatif. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus de constitution, parce que la séparation des pouvoirs est un principe sacro-saint de la République. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. Et dès l'instant où le législateur, sur ces trois cas de figure, s'autorise de soustraire au peuple français son droit d'arbitrage, de lui retirer dans des cas très différents sa souveraineté, le peuple français peut appeler aux états généraux et faire le bilan. C'est ce qui va se faire, et faire le bilan, comme ça a été fait par les cahiers de doléances, et faire le bilan de la destruction de la nation française et du peuple français. L'appel aux états généraux est donc légitime et légal. Il s'inscrit dans la tradition française du droit et dans le cadre de cette conjoncture politique où il y a une déliquescence complète du pouvoir législatif, parce que les représentants du peuple, en votant le droit de vote des étrangers, le peuple français leur a délégué un pouvoir de souveraineté, mais il leur a pas dit, ce pouvoir m'appartient, il vous appartient. Il leur a dit, on vous délègue, le peuple français leur dit, on vous délègue notre souveraineté, mais qui vous autorise, par un vote à l'Assemblée nationale, de la remettre en cause?
Voilà. Oui, on est dans un cas assez classique de d'abus de droit, d'abus de pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, les élus ou les parlementaires se permettent de disposer à leur guise d'un pouvoir ou de prérogatives dont ils ne sont que les dépositaires, ils n'en sont pas les propriétaires. Et ça fait penser, toute proportion gardée, au fameux traité entre la France et l'Espagne, par lequel Louis XIV abandonnait les droits de la couronne de France sur l'Espagne, alors qu'il ne pouvait pas le faire, puisqu'il n'en était pas le propriétaire. Il était le dépositaire, il pouvait renoncer pour lui à la couronne d'Espagne, mais pas pour ses enfants. Et là, donc, les parlementaires français, s'ils veulent renoncer à la souveraineté, à leur souveraineté, c'est leur droit. Ils peuvent faire une chose, c'est démissionner et abandonner leurs indemnités parlementaires, mais s'en affranchir, ou plutôt l'abandonner au nom du peuple français, c'est une forfaiture, ça porte un nom. Voilà. Alors maintenant, on a bien compris, enfin moi en tout cas j'ai bien compris là, cette fois-ci les motivations juridiques lointaines, je dirais, premières en tout cas. Maintenant, l'objectif que vous vous êtes fixé, donc, c'est, comme vous l'avez dit, de réunir des états généraux dont le thème principal devrait être la question de l'immigration et de l'intégration. Alors, on va en parler de ça dans le début de la deuxième partie de l'émission, mais je voudrais quand même que, avant qu'on vienne au fond, vous nous disiez si vous savez comment vous allez pratiquement, parce qu'on a bien compris la technique, je dirais l'esthétique du mouvement. Pourquoi le peuple français peut convoquer que se convoquer lui-même au nom de sa souveraineté, pardon. Mais pratiquement, comment voyez-vous les choses?
Alors, je ne sais pas si je vais penser faire un petit horizon des médias sur les manipulations des médias en ce qui concerne notre action, non?
À mon avis, on en a beaucoup parlé.
Juste une petite note là-dessus. Quand je parlais du Figaro et du, l'impact de notre action est quand même assez extraordinaire. Il est paru dans le Monde. L'impact de notre action fait que quand nous avons décidé simplement de dire c'est les Français qui décident de l'intégration et de l'immigration, comme nous avons décidé d'en appeler aux états généraux, immédiatement, il s'est passé dans les médias et dans les structures politiques de gauche, ils ont dit il faut abandonner le thème d'intégration parce que, en effet, dans le mot intégration, on peut mettre autre chose. Et aussitôt, nous avons vu dans le Monde du 20 avril, dans le journal du Monde du 20 avril, un article qui s'appelait « Au revoir l'intégration » et qui disait ceci « L'intégration ne permet plus de décrire la réalité, déclare Nassira Guenif. Une telle évolution marque sans doute plus profondément la dissociation entre le thème de l'immigration et de l'intégration. » Mais, et là je vous dis, il y a une concomitance, il y a une complicité, je ne sais pas. Passer à la place de M. Masclot, est-ce un hasard? Est-ce dans le but de contrôler l'opinion publique que le Figaro répond en écho le 10 juillet 2000 un article d'une page entière écrit par Light Boutique, SOS Racisme, et elle reprend à son compte cette nouvelle stratégie médiatique et structurelle et déclare en France, les minorités, ça n'existe pas.
En clair, dès que vous avez commencé, dès que le mouvement que vous avez lancé a relancé en quelque sorte le débat sur l'intégration et sur l'immigration, le système a réagi. Alors est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est une conséquence? Ça, on peut pas le savoir. Mais en tout cas, on a vu le système, c'est-à-dire le système médiatique classique, dire « Oh, il faut plus parler de tout ça. Immigration, intégration, c'est hors sujet, voilà, ça n'a plus d'intérêt. » On parle de la souveraineté, immédiatement, dans le Figaro, il y a un papier qui dit « Oh, mais la souveraineté, non mais alors ça, c'est un truc étriqué. Maintenant, il faut parler d'autre chose. » On va maintenant, dans la deuxième partie de l'émission, après la pause technique, voir quel est l'objectif réel, quelle est l'ambition de ces états généraux.
bonne soirée avec nous sur Radio Courtoisie. Tout de suite et en direct, la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Bekech. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 19 juillet 2000 de 18h à 21h, en différé jeudi 20 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Oh, pardon, il y a un blanc là, un blanc à l'antenne, c'est pas que c'est un crime épouvantable, enfin c'est vraiment le moins pire que j'ai commis, si j'ose dire, à ce micro. Donc Alexandre Chavanis, sur les états généraux, je voudrais que vous me donniez maintenant une réponse sur le caractère pratique des choses, enfin la façon dont ça va se dérouler pratiquement.
On va tout de suite finir sur les médias, parce que ça va, on va déboucher sur la
question pratique. Il est entêté, hein, il veut absolument me placer sur Discord.
Dans le même ordre d'idées, dans Le Monde du 22 juin, est publié par un député socialiste de 2000, un texte qui dit qu'il y a peur du référendum et qui dit il faut faire maintenant des référendums à plusieurs questions. Tiens. Et le 8 et 9 juillet, sous la plume de Jean-Louis Debré, est publié un article qui s'appelle « Qui a peur du référendum ?» où l'argumentaire est identique et totalement identique. Alors se pose une question pour nous tout de suite dans le cadre de notre action. Qui a peur du référendum ? Bien entendu, la manière dont nous avons abordé avec la réunion des États généraux l'aspect du référendum, qui a peur du référendum ? Les gens qui ont peur que le peuple français s'exprime sur des sujets de société qui leur tient à cœur. Voilà qui a peur du référendum. Et je vais vous dire tout de suite, face à cette désinformation, il faudra deux choses. Que les auditeurs de Radio de Courtoisie, les milliers de personnes qui m'ont déjà écrit, écrivent à leurs médias et leur demandent pourquoi ils ne parlent pas de l'initiative des États généraux et du référendum sur l'immigration et l'intégration. Premier point. Deuxième point, s'il faut, en septembre, que nous fassions une manifestation ou une occupation d'un journal pour que la désinformation stoppe, eh bien nous le ferons. Alors, je vais vous donner, je vous ai dit, et voilà comment se fait l'action. Alors, je vais vous parler par le détail de la stratégie de l'action. Mais pour parler de la stratégie de l'action, il faut comprendre que nous avons démarré ceci il y a 3 à 4 mois, et il faut comprendre dans quelles circonstances ça s'est fait. Maintenant, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont déjà répondu. Il faut d'abord que les Français comprennent. C'est la première des choses pour apprendre, après revenir dans la structure même de l'action. Il faut que les Français comprennent qu'il faut qu'ils s'unissent sur un thème commun. C'est ça la base de l'action, sur un thème commun, et qu'ils oublient leur chipoterie, leur chapelle, leur dissension, leur misère personnelle, le nombre de lettres, où les gens, avant d'arriver à l'essentiel, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Parce que la question que je me pose, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Alors je vais vous dire ce qu'on doit faire ensemble, je vais vous le dire précisément, mais je dis aux gens, demandez-moi ce que nous allons faire ensemble, et je vais vous répondre, mais ne me dites pas que un tel est comme ça, un tel est comme ça, un tel est comme ça, parce que nous allons perdre beaucoup de temps. Donc, nous sommes. Écoute, il y a un grand principe qui a dirigé la majorité des Français. Rappelez-vous, la majorité silencieuse, la grande maître en ce qui concerne l'armée. Mais ces principes sont des principes de gauche, sont des principes pour détruire les gens même et leur dire vous êtes la grande maître, vous êtes la majorité silencieuse. Moi, je vous dis, devenez la majorité qui parle, devenez, unissez-vous pendant 6 mois, sortez de vos chapelles, et c'est ça la condition psychologique à la réussite du projet. Donc vous allez vous mettre en mouvement et faire vivre une idée, en comptant sur vous-même, créer des réseaux concentriques, c'est-à-dire autour de vous, déjà dans votre famille, ensuite par rapport à vos milieux professionnels, vos milieux politiques, et on vous enverra, il y a des milliers de personnes qui l'ont déjà reçu, un document unique en plusieurs exemplaires avec un ensemble d'autres documents dont la plainte, la présentation de la plainte que nous allons déposer en septembre. Et ceci, vous allez le faire vivre. Vous allez faire vivre jusqu'en septembre. Je vois des gens, quand même, il y a quelque chose d'extraordinaire.
Attends, mais vous allez le faire vivre, ça veut dire quoi, pratiquement?
Les documents, il y a un mode d'emploi sur le document. Donc, vous allez envoyer à vos journaux, vous allez envoyer à vos amis, vous allez distribuer dans vos boîtes à lettres, vous allez, si vous partez en vacances, il y a un fait divers qui est en train de se produire, dans lequel des bandes saccagent, mettons, à Saint-Malo, vous distribuez, ça vous coûtera 2 heures de vos vacances, mais vous distribuerez le document dans la rue où s'est passé les saccages, dans le lieu où s'est passé les agressions, vous enverrez à la presse locale le document. C'est ça, faire vivre un document. Pourquoi voulez-vous avoir un référendum? Pourquoi voulez-vous qu'on vous donne un référendum si vous ne vous mettez pas en mouvement?
Alors, donc vous avez un document. Je voudrais résumer. On vous écrit. On vous envoie une lettre. On dit voilà, je suis intéressé par votre action, et vous envoyez à ce moment-là un document qui est un ensemble de un dossier dans lequel il y a d'abord l'explication de ce que vous voulez faire et, disons, des tracts pour simplifier.
Oui, c'est un
des tracts qu'il faut faire circuler pour inciter chacun qui va recevoir ce document, ce dossier, a pour mission en quelque sorte d'être un correspondant, d'être un relais d'action, et il va distribuer autour de lui, dans sa famille, dans son milieu professionnel, dans son milieu d'existence, dans son quartier de vacances, dans les transports en commun, à tout propos, devant l'église, etc. Il va distribuer ce tract, qui est un tract parfaitement légal, qui appelle à la constitution d'états généraux du peuple français pour se prononcer sur la question de l'immigration et de l'intégration.
Voilà.
Avec une possibilité de retour, parce qu'il y a des questions qui sont posées, donc chacun peut répondre aux questions, et une possibilité, et même une invitation à retourner, c'est-à-dire à faire un acte, là, en quelque sorte, de réponse.
À Chirac, à Jospin, à...
Mais à vous aussi,
le document lui-même, si les gens se mettent en mouvement, ils vont écrire. Alors, il y a quelque chose. Les gens disent, est-ce qu'on doit signer quand on écrit à Jospin et à Chirac? Je vous donne des questions. Je dis aux gens, oui, signez. Si vous avez peur d'être français, ne signez pas. Monsieur Jospin, votre conseil municipal ou Monsieur Chirac doivent vous répondre, parce que c'est les questions que vous vous posez et c'est le référendum que vous voulez. Donc, mise en place, donc c'est ce que j'appelle la période de sensibilisation. C'est-à-dire que vous avez un document unique avec un mode d'emploi et vous faites vivre ce document. Vous pouvez créer des sites internet pour faire vivre le document d'une autre manière. Ensuite, début septembre, ceci doit se passer même pendant le mois d'août. Donc c'est ce que j'ai appelé la période de sensibilisation. Et je voudrais quand même, Serge, te donner, quand les gens parlent de réel, et du pays réel, je vais te donner, tu vas simplement lire cette petite chose.
On se tutoie alors, on est copains maintenant.
Serge, je vais vous donner un document qui, parce que les gens disent c'est une...
On essaye de faire croire qu'on se connaît pas,
qui a inventé l'écologie, je peux vous dire, Serge va vous le lire, c'est un article, il va vous lire un petit morceau, de l'Est républicain, avec une animation enfantine, il y a des belles photos, il va vous le décrire, et il vous dira comment il y a de ceci 30 ans, j'appelais à un urbanisme différent et j'appelais à une écologie humaine complètement différente. Alors, tu peux commenter voir la réalité du projet.
D'abord, je voudrais répondre à un auditeur qui fait le coup du harcèlement. Il envoie en disant, qui êtes-vous, d'où venez-vous? Comme toujours, monsieur Chabanis se moque du... Alors, on répond pas tout... Bon, monsieur, vous dites, Chabanis se moque du monde et ne répond pas aux questions, qui êtes-vous, d'où venez-vous? Alors, c'est vous qui vous moquez du monde, parce que les 20 premières minutes de son intervention étaient consacrées à dire d'où il est, d'où il vient et qui il est. Alors, si vous n'écoutez pas l'émission, ayez au moins la courtoisie de pas poser de questions.
Je suis né à Bourg-Saint-Andéol le 26 juillet 1940. Voilà d'où je viens.
Alors, donc tout ça, c'est pas intéressant. Je le dis comme je le pense. Voilà. Alors le document en question, oui, c'est un peu éloigné de notre.
Mais c'est le réalisme.
Oui, mais ça nous ramène donc à l'origine de l'action chabanicienne. C'est une association du nom de Comité d'animation culturelle, sportive et sociale s'est créée au Champmontant. Association menée primitivement sous les auspices d'un comité de coordination de l'action culturelle de la ville d'Audincourt, plus apte a priori à s'assurer des structures matérielles. En fait, c'est un article qui montre comment en 73, donc il y a 27 ans, Chabanis avait mis sur pied un système d'animation culturelle dans les quartiers, en fait de lutte contre l'exclusion, comme on disait, et lutte contre la délinquance, etc.
Et ben voilà.
Alors si vous voulez, monsieur qui demande qui est Chabanis, vous demandez à l'Est républicain de vous envoyer un exemplaire de son numéro du 17 avril 73, ça vous ouvrira des lumières intéressantes sur la personnalité de mon invité. Alors continuons.
Alors,
je voulais dire... Il y a des gens qui ont compris. J'ai un document qui est assez touchant sous les yeux. C'est un chèque. Alors un chèque, c'est toujours touchant. Mais là, c'est un chèque de 99 francs, ce qui est touchant et surprenant, qui est envoyé par un certain Jean-Marie, un Jean-Marie, voilà.
C'est qui très bien, ce gars-là.
Et il écrit, il envoie cette lettre accompagnée sur un petit bout d'enveloppe des allocations familiales, du RMI, plus exactement, et il joint un questionnaire relatif au RMI. Et alors il écrit ça. Avec 2246 francs RMI, le chèque ne peut pas être plus important. Bon courage, même si je ne comprends pas tout, et même si votre questionnaire est aussi compliqué que celui de l'EDF. Bravo pour votre courage nécessaire. Alors ce monsieur, il dit qu'il comprend pas tout, mais moi je crois qu'il a tout compris.
Voilà, parce que il est évident que quand vous avez, par exemple, ces 31 questions des débuts à la fin sont un bouquin de droit, il est évident que ce qui est extraordinaire dans ce petit courrier que je vous ai emmené avec ce petit chèque de 99 francs pour un RMI, c'est que le type dit je ne comprends tout, et c'est ça la vérité, et que c'est qu'il y aurait des intellectuels qui ne comprendraient pas à eux. Alors je ne comprends pas. Voilà un type du peuple qui dit je ne comprends pas tout parce que c'est normal, parce qu'il n'a pas d'éducation. Et il y en a d'autres
d'instruction
qui est un type de grande foi et de grande qualité et qui dit mais qui sait que il a compris là, la synthèse. Il sait où il va. Et si lui homme du peuple au RMiste envoie 99 francs, si lui dit je ne comprends pas tout, qui ne comprendrait pas? Qui, homme intelligent, ne comprendrait pas mon action? Alors, on va continuer sur le plan pratique. Début septembre, nous allons déposer une plainte, celle dont je vous ai parlé, avec conférence de presse devant le palais de justice, sur le droit de vote des étrangers. Cette plainte, elle est dans l'ordinateur, elle sortira. Je demande aux gens de se joindre à cette plainte. Il faudra que nous soyons 200-300 devant le palais de justice et nous ferons une conférence de presse au moment du dépôt de cette plainte contre le droit de vote des étrangers. Nous distribuerons aussi devant un grand quotidien un tract interpellant ces quotidiens. Au mois de septembre, il faudra poursuivre la, la sensibilisation individuelle. C'est-à-dire que les gens devront continuer à faire vivre le document.
Alors, pardon, un auditeur téléphone en disant, mais le problème des affiches, c'est qu'on n'a jamais de colle, est-ce qu'il y aura des affiches autocollantes? Alors, il y a deux réponses. D'une part, il y en aura.
Oui, alors, je
vais... Mais d'autre part, c'est pas tellement des affiches. Il faut pas se contenter de coller des affiches. Je crois que c'est vraiment, là, il y a une démarche de résistance pratique. C'est-à-dire qu'il faut descendre dans la rue et donner les tracts aux gens et leur parler. Parce qu'il faut faire comprendre aux Français que on peut plus se contenter de regarder la télévision et de rester le derrière sur sa télé en attendant que les choses changent. Je crois que là, vraiment, si on ne réussit pas, si ce projet de Chabanis, cette initiative d'états généraux ne réussit pas, ça sera le signe, au fond, que les Français n'ont pas envie d'être tirés d'affaires, ils n'ont pas envie,
voilà,
après tout ce qui leur arrive, ils l'ont
voilà,
voulu, ils l'ont mérité.
Ils se complaisent dans leur lutte partisane, dans leur division, dans leur petit esprit de chapelle. Alors, on continue. J'engagerai à partir de septembre un tour de France et des réunions, et ferai des réunions internes pour mettre en place les comités départementaux régionaux. C'est-à-dire que je joins maintenant à tous les envois une lettre type dans laquelle il y a marqué comité départemental 2 et la personne met son comité de l'origine et commune de Paris. Par exemple, là, j'ai un Front de Libération Nationale, comité départemental de Paris, commune de Paris. Et j'envoie ça à des gens qui m'écrivent de Paris. Dans le Var, c'est comité départemental de... Et là, je commence la structuration, c'est-à-dire dans le texte qui est envoyé aux gens, on parle du comité départemental du Var, du comité départemental. Et c'est là où on fait monter les états généraux. On parle des comités départementaux et on parle des communes. Alors, j'engagerai à partir de septembre un tour de France et réunions internes pour mettre en place les comités départementaux et régionaux fin septembre. Nous annoncerons la date et les lieux des états généraux. Fin septembre aussi, nous créerons le comité national qui appellera à la réunion des états généraux. Nous créerons donc un comité national qui appellera lui, qui viendra de toutes les provinces de France et qui appellera, lui, aux états généraux, officiellement. Début octobre, sortie du document, d'un deuxième document de référence appelant à ces états généraux et expliquant de manière encore plus concise pourquoi. Fin octobre, mi-novembre, réunion des états généraux sur 2 jours, samedi, dimanche. Donc nous aurons 2 jours dans lequel ces états généraux ont lieu. Réunion par thème de réflexion et d'action des comités départementaux, élaboration et rédaction des constats négatifs qui décident de la réunion des états généraux. On rédigera un document dans lequel on fera les constats négatifs qui décident de la réunion des états généraux, c'est-à-dire l'insécurité, c'est-à-dire la violence, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire tous les constats négatifs, et il y en a. Les constats positifs que nous opposons à cette destruction de la France. Donc il y aura une deuxième partie dans ce document, les constats positifs que nous opposons à ces constats négatifs. Et troisième point, les questions référendaires qui seront posées au peuple français. Nous sortirons l'ensemble des questions qui seront posées au peuple français. Ce document de synthèse sera tiré dans la nuit et sera distribué le lendemain à tous les participants à la réunion publique qui aura lieu le lendemain. Commandes seront faites pour distribuer dans les régions. C'est-à-dire les gens pourront commander ce document et partir avec des piles de documents pour continuer la propagande sur les régions. Et à ce moment-là, pendant 2 mois, je pense, il se passera, mais à ce moment-là, nous mettrons en place une nouvelle stratégie pour imposer le référendum. Avec ce document, toute la France doit être submergée par ce document. La réunion publique du dimanche, tous les leaders politiques seront appelés à prendre la parole. Il n'y aura ni exclusive, ni exclusion. C'est-à-dire que là, je pose une question très simple aux leaders politiques. Êtes-vous capable, pour un référendum sur l'immigration, d'aller dans une réunion publique et d'exposer sans exclusive votre conception de l'immigration et de l'intégration dans un temps de parole qui vous sera donné? Tous les responsables d'associations sont conviés à ce temps de parole et les membres du comité national commenteront le document appelant au référendum. Voici l'action structurellement, comment ça doit se passer.
Voilà, alors maintenant on a compris, malheureusement le temps qui nous est imparti, comme on dit, est écoulé. On reviendra donc dans une prochaine émission sur ce sujet qui est inépuisable. Et je voudrais, pour conclure, donner la parole à un auditeur qui me paraît, enfin, dont l'opinion, c'est pour ça que je m'en sers comme conclusion, dont l'opinion rejoint exactement la mienne. Il dit: il faut absolument que tous les patriotes de quelques partis nationaux que ce soit adhère à l'action de M. Chabanis, c'est la seule action actuellement qui soit de nature à permettre de déboucher sur un projet concret. Il faut supplier les partis nationaux de passer au-dessus de leurs réticences, de leurs intérêts, pour se consacrer à cette action. Voilà. Je crois que ça serait, c'est ce qu'on appellerait en orfèvrerie, une pierre de touche. Hein. Quand on touche avec cette pierre, si c'est pas de l'or, ça marque pas. Donc si vous pensez que vos hommes politiques, vos leaders politiques, quels qu'ils soient, de quelque parti qu'ils soient, méritent votre confiance, vous allez les voir et vous leur dites, voilà, monsieur Darty, est-ce que oui ou non vous êtes prêt à soutenir l'action en vue, pas l'action de Chabanis, mais l'action de tous les gens qui essaient d'organiser des états généraux du peuple français, qui sont en guerre. Et si vous êtes d'accord, eh bien, participez. Si vous n'êtes pas d'accord, merci, je n'ai plus rien à voir avec vous. Voilà, moi, ce que je ferais si j'étais militant d'un parti quelconque, ce qui n'est pas le cas. Dernière chose, si vous êtes intéressé, ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, non, c'est vrai, c'est vraiment pas le cas. Si vous êtes intéressé par ce projet, cette action, je vous rappelle que vous pouvez joindre Chabanis, 34 Grande Rue, à Bessancourt, 95 550. Vous pouvez lui écrire, vous pouvez lui faxer, vous pouvez lui téléphoner au 01 30 40 03 71. Voilà. 01 30 40 03 71. C'est ce que j'ai dit. Oui, ouais. C'est pourquoi je vous apprends, je t'apprends ton numéro de téléphone.
Non, c'est pas...
Donc, je rappelle également que le mouvement se fait en marchant, mais en marchant jusqu'à un local. Donc, on cherche un local.
Oui, oui, il faut absolument un local pour la rentrée. Donc, je pense, et il nous faut des moyens. Et il faut maintenant que les gens comprennent qu'il faut
un
des moyens. Un
imprimeur pour des affiches et autocollants. Alors, le papier existe.
Oui, le papier. J'ai des rouleaux d'autocollants. Je cherche un imprimeur qui peut m'imprimer mes autocollants sur mes autocollants et mon affiche, puisque j'ai le papier, j'ai les autocollants et je cherche toujours un imprimeur. C'est évident que ceci, ça nous permettrait déjà de démultiplier tout de suite l'action et d'envoyer en province, dans toutes les provinces maintenant, puisque nous sommes à peu près représentés dans tous les départements, d'envoyer maintenant des autocollants et d'envoyer des affiches.
Et enfin, de l'argent.
Oui, il faut de l'argent.
C'est très original. Oui. Vous pouvez absolument vous inspirer de l'exemple de ce RMiste qui a envoyé 99 francs pour un revenu de...
Ça, c'est de la noblesse.
De 240 francs par mois. C'est 240 francs, 2400 francs. C'est-à-dire que, si je me trompe pas, il a envoyé à peu près 3% ou 4% de son revenu.
Mais ça, c'est ce qu'on appelle la noblesse du peuple. Voilà. La noblesse de cœur, la noblesse d'âme.
Merci, Alexandre.
De rien. Au revoir, messieurs dames.
On a reconnu le générique de Cécilia. Bonsoir Cécilia.
Bonsoir Serge, bonsoir aux auditeurs, bonsoir Catherine Rizzani, merci d'être là. On va parler tout à l'heure de votre dernier ouvrage qui, j'espère, intéressera ce soir nos jeunes auditeurs. J'ai quelques annonces d'été à faire. D'abord, pour les Parisiens, musique côté jardin. Étalés sur juillet, août et septembre, plus de 250 concerts gratuits dans les squares, les jardins, les parcs parisiens. Alors, je ne vais évidemment pas les énumérer. On trouve la petite brochure. Il y en a pour tous les goûts, hein, tous les styles de musique. Et on trouve la petite brochure dans les mairies d'arrondissement, les syndicats d'initiative. Je pense que ce sont des promenades agréables. Ensuite, je rappelle que ce sont les derniers jours, c'est la dernière fin de semaine d'une exposition qui n'a pas plu à tout le monde, mais qui était peut-être très amusante. Je crois que Catherine Rizzani y est allée. 2000 nains à Bagatelle. avec les, des pièces historiques remontant à l'Antiquité. Donc on va au parc de Bagatelle encore tout jusqu'au 23 juillet. Ensuite, à nouveau, le concours européen en tente florale qui fait suite au fleurissement des villes et villages de France a cette année deux candidats français, Grande-Synthe dans le Nord et Saint-Aubin dans le Pas-de-Calais. Et le jury passera dans ces deux villes respectivement le 22 juillet et le 23 juillet. Et ce concours donnera lieu à de nombreuses animations et festivités dans ces villes. Donc les gens des environs et se renseignent sur place. Il y aura des animations autour des fleurs. Je rappelle le festival de Chaumont-sur-Loire. C'est le 9e festival international. 30 jardins sur le thème libre cette année. C'est jusqu'au 22 octobre. Nos auditeurs se souviennent que Françoise Persouir était venue nous parler du sien et du festival en général avec beaucoup de passion. C'est à Chaumont-sur-Loire. Maintenant, je me dispense de dire comment on atteint les lieux que je cite au départ de Paris, puisque c'est toute la France qui nous entend, donc ça concerne les gens qui sont dans les parages. Je rappelle aussi l'exposition Paysages de la vigne qui se tient actuellement à Bordeaux jusqu'au 24 septembre au hangar 14 quai des Chartrons. Et je la signale parce que c'est une exposition qui ensuite viendra à Paris pour aller à Lausanne et se promener un petit peu en Europe et de par le monde. Voilà pour les annonces, pour les petites promenades ici ou là. J'ai quelques ouvrages. J'ai choisi ce mois-ci des ouvrages, des livres de cuisine parce que je pense qu'on a un petit peu le temps, c'est l'été. Et donc j'ai ici la cuisine aux fruits d'Aglaé Blin et la cuisine aux fleurs de Véronique de Meyer dans la même collection chez Flammarion.
On avait déjà parlé de la cuisine aux fleurs, non?
D'autres ouvrages, j'en ai déjà présenté deux ou trois, oui. Alors, la cuisine aux fruits est peut-être un petit peu moins originale. Tout le monde connaît déjà le canard à l'orange, mais il y a quand même certaines petites choses amusantes qu'on peut vouloir découvrir. Le Saint-Pierre à la rhubarbe, par exemple. Alors, ce sont de très beaux livres, très bien illustrés, de très belles photos. Les recettes sont bien détaillées. Pour les fleurs, pour les fruits, il est précédé par un chapitre sur les fruits de saison et les fruits exotiques. Là, vous m'obligez.
Non, mais parce que chaque fois que vous nous ouvrez un livre, vous touchez le micro d'accord. Et Franck est en train
pour
de
les
faire.
Fleurs, il y a les fleurs des quatre saisons qui sont aussi énumérées. Il y a aussi quelques petites choses très amusantes. Choisissez une qui vous plairait davantage, une recette qui vous plairait davantage.
Ben, ça, c'est assez classique. Mais
oui, mais
fleurs de courgette partielle à moule de saumon.
Ça devient classique.
Crème anglaise à la bruyère, voilà. C'est très appétissant. C'est pour moi tous ces livres, alors.
Si vous voulez. Je crois qu'ils coûtent chacun 98 francs.
Oh, c'est un beau cadeau.
89 francs, excusez-moi.
C'est moins beau, alors.
Oh, c'est pas cher.
Ben non, justement. Comme ça. 98, ça m'intéressait. 89, c'est un moins déjà.
Ah oui, je comprends. Et alors un autre, les recettes secrètes des jardiniers de Normandie. Alors là, c'est un livre qui est publié par Ouest France, de Brigitte Racine, avec de très très belles photos de Didier Benahouda, qui allie la promenade dans divers lieux de Normandie et la cuisine. La préface du livre dit que derrière chaque potager se cache un jardinier. Et ce sont les propriétaires des jardins en question qui nous livrent leurs recettes secrètes. Ah, il y a de très belles choses. Il y a entre autres le château de Miroménil où est né Maupassant. Il y a les jardins familiaux des environs de Caen et des environs de Rouen. Mm-hmm. Alors, la fin du livre contient un...
Et le micro continue à subir les...
Excusez-moi, j'apporterai plus de livre si ça continue. Un carnet d'adresses avec les heures d'ouverture, parce que certains de ces lieux proposent aussi hôtel de charme et table d'hôte. Donc on goûte ces fameuses recettes et aussi la visite des parcs concernés. Il est extrêmement joli.
Celui-là, je vous le prends, alors.
125 recettes.
Ah, oui,
il y a 125 recettes et le prix est là indiqué. Vous allez me le prendre, celui-ci?
Oui.
Je pensais l'offrir à une amie normande, ça tombe mal.
Tant pis
pour moi. 99 francs.
C'est le droit de prima nocte, non, pas tout à fait, mais
et
c'est
alors,
le droit.
Pour les gens qui n'ont pas de jardin, mais qui veulent manger toutes ces bonnes choses, voici le guide des produits bio et du terroir. 4000 adresses pour les découvrir. Dave François et Robert Pinto.
Alors, c'est il y a pas d'abord. Ruché.
Chez Flammarion, la maison rustique également. Il y a un petit prélude, si on veut, avec les produits du terroir, les fromages, ça va de la boulette d'avenne au chabichou, les pâtisseries, les boissons, hormis les vins, les miels, etc. Et ensuite, les adresses, avec la façon de les repérer très facilement. Alors, la liste des villes est alphabétique, donc on voit toute la France.
C'est tous les produits bio, là, on ne sait pas si c'est vraiment bio, mais on est sûr que c'est plus cher.
On vous indique si c'est une table, si vous pouvez y manger, si c'est un marché, si c'est la vente chez le producteur, là c'est quand même les produits achetés à la ferme, ou si c'est
un guide,
des boutiques. Voilà. Alors, il donc couvre toute la France, la Belgique, le Luxembourg, le Québec, mon cher, Guadeloupe et la Réunion. Et la
toute
Suisse.
Région où je n'irai jamais.
Et il coûte 98 francs. Alors, Catherine Neritsani, après ce petit préambule, je vous présente à nos invités. Vous êtes déjà l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un...
Elle est perdue. Vous serez puni comme les enfants. Elle a perdu l'ouvrage de Catherine.
Non, pas l'ouvrage, je l'ai là.
Ah bon.
Mais j'ai perdu mon...
Mais si vous voulez, je peux...
Alors, voilà, vous avez déjà publié deux ouvrages un peu particuliers, Les parfums du jardin...
Et La campagne au balcon.
Voilà. Mais ce ne sont pas des livres à feuilleter uniquement.
Non. Non, j'ai préféré, en quelque sorte, parler... en écrivant, c'est une sorte de dialogue, en pensant aux gens qui ont toujours un peu peur de se lancer dans ce qu'ils croient être difficile. Et moi, j'ai voulu écrire comme une conversation en leur disant non, c'est simple, et ne pas prendre les choses d'une façon trop savante, théorique, etc., mais leur expliquer tout simplement que si on fait comme ça, ça marche, et c'est tout. Et il y a des tas de plantes qui poussent très facilement, ou il y a des tas de plantes, si on prend un peu de soin, qui sont belles, qui durent longtemps, qui font plaisir, et c'est pas une affaire. Donc j'essaye toujours de faire des guides qui donnent envie de faire les choses, parce que c'est pas difficile.
Voilà. Et alors, après les adultes, vous avez pensé aux enfants. Et c'est le livre qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, qui s'intitule « Jardiner, un jeu d'enfant », que vous dessinez au tout petit, de préférence.
Alors, ces tout petits ont tout de même 6 ans,
5-6
ans. Ils n'ont pas 8 ans. C'est,
non, c'est ça.
C'est une psychologie
différente. Vous avez pensé à eux,
oui. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu faire un livre pour les enfants? C'est parce que j'ai toujours été épatée par la créativité des enfants. Et... qu'est-ce qu'il y a de plus créatif que de donner la vie à une plante?
Oui,
et malheureusement, on ne sait pas toujours le faire. Et j'ai voulu... Les adultes ne savent pas toujours ça, ou ne s'y intéressent pas, et on laisse les enfants un peu en carafe, dans un domaine qui est formidable pour eux. Alors, j'ai en quelque sorte essayé de transmettre ce savoir magique à la place des adultes qui entourent ces enfants et qui soit n'ont pas goût à ça, soit ne savent pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce petit bouquin. Je considère aussi que, je l'ai remarqué, les enfants ont un pouvoir de... une capacité d'assimilation extraordinaire, mais ça ne dure pas longtemps. Au bout d'un quart d'heure, c'est généralement, c'est fini. Donc j'ai conçu ce livre pour que chaque plante, en fait, on puisse en faire le tour en un quart d'heure.
Un livre de zapping.
C'est pas un zapping, mais un quart d'heure. Avec un quart d'heure, on peut être très content parce qu'on a compris comment il fallait faire et on a compris ce qu'était la plante, ce qui était son intérêt.
Alors, vous commencez par un petit peu de technique.
Oui, c'est très technique.
Expliquez aux enfants ce qu'est la terre, l'eau.
Enrichit la terre, aère, désherbe.
Et il y a un arrose.
Arrose, oui. C'est pas encore, c'est après. Il y a l'ami de tous les jardiniers, un petit paragraphe sur le ver de terre. Et ensuite, l'eau. Arroser, c'est tout un art. La pomme ou le goulot. Le soleil est long, on choisit la bonne lumière. Oui, c'est ça, c'est vraiment... On a l'impression qu'on prend un enfant par la main,
voilà,
qu'on le conduit dans le jardin.
C'est-à-dire que quand on donne un ordre à un enfant, il n'a aucune envie d'obéir si on ne lui explique pas pourquoi. Donc là, j'ai essayé d'expliquer...
Il suffit de le battre un petit peu, ça sera très bien.
Alors moi, je ne pouvais pas le battre, parce qu'on ne bat pas les enfants avec des livres. Mais donc, j'ai préféré lui expliquer pourquoi il faut s'occuper de la terre, que la terre est vivante, que la terre peut s'épuiser, que la nourriture de la terre dont se nourrissent les plantes s'épuise. Enfin, j'ai essayé d'expliquer tout ça pour qu'ils aient envie de retourner la terre, de mettre un peu de terreau, de compost, des choses comme ça. On n'arrose pas n'importe comment non plus, parce qu'on peut étouffer les plantes, ou au contraire, elles vont tourner de l'œil si on les arrose pas assez souvent. Donc si je leur explique pourquoi on fait telle chose ou telle autre, je crois qu'ils le feront avec plus de plaisir. C'est pour ça que j'ai essayé de faire ces petits chapitres qui durent 2 pages.
Avec plein de petits dessins très simples.
Ravissant, les petits dessins sont ravissants.
Oui, là j'ai eu la chance, j'ai l'illustratrice Agnès Audra, avait beaucoup de poésie et en même temps beaucoup de précision, ce qui n'est pas facile de réussir à la fois.
Maintenant je sais ce que c'est qu'une serfouette.
Mais voilà.
Vous saviez ce que c'était qu'une serfouette? Oui, vous savez. Moi je savais, une serfouette, ça sert à casser les mottes de terre et désherber. Vous saviez ça?
Eh ben voilà. C'est très pratique.
Oui, vous aurez appris quelque chose.
Je disais à Catherine Sani tout à l'heure que j'ai retrouvé à l'occasion d'un mariage dans la famille un neveu de 32 ans qui a été élevé à la campagne, qui ne connaissait pas la couleur des fleurs de pommes de terre.
Ah bon.
Et il a été élevé à la campagne, il allait en bicyclette à la ville voisine.
Il traversait peut-être pas les champs de pommes de terre.
Je sais pas ce qu'il traversait, mais enfin bon, il ne devait pas ouvrir beaucoup les yeux. Alors il y a aussi un petit vocabulaire qui est très, très sympathique. Ah, on dit à l'enfant ce qu'est un poquet.
Coureuse. Qu'est-ce que c'est qu'une coureuse? C'est une plante dont les tiges s'allongent et rampent sur plusieurs mètres.
Oui, c'était rigolo pour les enfants.
C'est celle qu'on appelle aussi décevant. La volubile.
Pardon ?
C'est celle qu'on appelle aussi la volubile.
Les volubiles tournent autour d'un axe pour grimper.
Ah oui, tandis que les autres courent vraiment
par terre.
La tourbe est une terre acide et très légère qui retient bien l'eau.
Et alors ensuite, Catherine Ritsani a sélectionné un certain nombre de plantes. Facile, parce que vous ne voulez pas d'échecs au début.
Voilà, toute marche
très bien. Il n'y a pas la lentille.
Non, parce que...
Alors, pourquoi il n'y a pas la lentille? Moi, j'ai commencé
par partout.
Cultiver des lentilles. Là, on commence par la capucine, c'est quand même un départ.
Et il n'y a pas le haricot non plus, il existe sous forme de fleurs, mais pas...
Le haricot d'Espagne.
Oui, mais sous forme de fleurs.
Ah, voilà.
On peut le manger, le haricot, mais on le cultive surtout pour ses fleurs.
Alors, il y a les plantes qui grimpent vite et haut, l'arbre à papillons, le budléia.
Oui. Oui, ça attire vraiment les papillons.
Vous savez, c'est une histoire très curieuse, le budléia. C'est un arbre qui a été ramené avec plein de précautions du Tibet, qui a été acclimaté.
Comme l'oiseau, encore
beaucoup de précautions, et qu'on a trouvé 50 ans plus tard dans les décharges et dans les carrières. Et ça pousse là où rien d'autre ne pousse. Et c'est une grande beauté.
Ah oui, ça sert à être beau, quoi.
C'est très,
et à attirer les papillons.
Et ça attire les papillons, oui, bon. Ça sert d'élevage à papillons.
Alors, le dessert qui remonte, le framboisier. Puis ça doit fasciner les enfants d'avoir un dessert qui pousse.
Mais les enfants
sur leur
sont
balcon.
Gourmands. Alors les enfants sont gourmands, il faut absolument leur donner des fraises, des tomates,
des framboises. Tomates parce que c'est gai.
Et puis c'est délicieux, et puis ils sont très fiers après de ramener ça à la cuisine. Et
d'expliquer que ça n'est pas un légume, mais un fruit qu'on mange en légumes.
Et alors chaque plante est traitée, ça c'est amusant aussi, sur 2 pages, avec un calendrier. Hein.
Bien sûr.
En octobre-novembre, il faut faire tremper le budléia dans un seau d'eau, creuser un trou, etc. etc.
Oui, parce qu'il faut quand même que les enfants sachent en combien de temps ça marche. Mais il y a des plantes, le calendrier dure 3 semaines. Par exemple, le radis, c'est 1 mois.
Mais rapide.
Il y a des plantes comme ça qui sont très très rapides, et ça c'est très important pour les enfants qui sont impatients.
Et le persil, est-ce que vous avez essayé d'apprendre aux enfants à faire pousser
le
persil?
Oui, mais il faut être patient, il faut être très patient.
C'est méchant le persil, ça ne pousse pas facilement.
Ça pousse toujours, mais il faut être patient. Mais donc j'ai essayé de penser à la psychologie des enfants qui sont impatients. Donc il y a le radis, il y a la salade à couper, tout ça, ça pousse à tout à l'heure.
Vous savez, le souvenir, c'est un de mes plus vieux souvenirs d'enfant, c'est le jour où j'ai pu servir à ma mère des radis que j'avais semés dans le jardin.
Vous étiez content?
Oh là là, on les a apportés sur la table, c'était mieux que si ça avait été du caviar.
Ah, c'est bien.
Ils étaient bien meilleurs que ceux du marché.
Encore je suis pas sûr, ils n'étaient pas gros, en tout cas, je me souviens.
Mais maintenant. Et alors, elle a pensé aussi aux enfants qui n'ont pas de jardin. Il y a aussi des conseils de jardin en pot.
Alors il y a des bulbes notamment,
voilà.
Des bulbes qu'on peut planter et maintenant d'ailleurs, qui sont les crocus, et puis ceux qu'on peut planter un mois avant Noël pour les arbres à Noël, qui sont les jacinthes, et puis des narcisses qui poussent très bien dans les totus albus, ça veut dire, totus albus veut dire tout blanc.
Tout blanc.
Et en un mois c'est fait, les jacinthes c'est plus long, mais les totus albus ça marche tout de suite.
Voilà. Alors vous remerciez une école, là. Vous avez fait des expériences, des exercices avec eux, où ils vous ont accueilli pour...
Pour faire ce livre, j'ai interrogé beaucoup d'enfants. Et puis je me suis rendu compte que plus ils étaient jeunes, plus ils avaient un pouvoir d'assimilation formidable, et plus ils étaient créatifs et désireux de faire du jardinage. Donc moi je pensais au départ faire un livre pour les enfants de 8 ans. Je me suis dit non, c'est à 6 ans que ça les intéresse vraiment. Et j'ai été voir dans les écoles des enfants qui avaient la chance d'avoir un jardin. Et j'ai notamment rencontré dans une école de la rue Rampal dans le 19e une femme formidable qui a créé, une institutrice qui a créé pour son école, par elle-même, avec ses propres moyens, un jardin potager. Et la directrice, évidemment, a suivi ce projet.
À quel endroit ?
Rue Rampal, dans le 19e, c'est remarquable.
C'est incroyable, non ?
Remarquable. Et ce que j'ai vu chez elle a confirmé ce que j'avais vu d'ailleurs ailleurs à Bercy, où il y a déjà les potagers de Bercy pour les enfants. Et j'ai vu que, effectivement, plus les enfants étaient jeunes, plus ils assimilaient vite, plus ils étaient heureux de créer.
Plus fiers, oui, bien
et
sûr.
Elle avait même, cette femme avait même inversé les rôles, c'est-à-dire que c'était les petits qui apprenaient aux plus grands.
Ah, ça, c'est drôle,
oui.
Mignon comme deux.
Oui.
Et bien justement, la Société nationale d'horticulture de France, dont nous parlons assez souvent, vous rejoint parce qu'elle lance une sorte de campagne pour justement aider les enfants à accéder au jardinage, et ils vont travailler en accord avec les écoles.
Une campagne en faveur du jardinage, ça s'impose.
C'est complètement idiot comme formule, mais ça ne fait rien. Et les gens qui voudront bien prendre contact avec eux pour savoir où on peut trouver soit des cours de jardinage, soit même en instaurer. Je vais donc donner le numéro de téléphone de la SNHF, c'est le 01 44 39 78 78. 01 44 39 78 78. Je crois que là, il y a quelque chose qui se dessine et qui est intéressant.
Oui, et puis autour de ça, je vois que quand les enfants peuvent jardiner, finalement, ça devient un projet familial et c'est merveilleux parce que toute la famille s'y met. Ça m'a fait plaisir aussi de voir ça.
Alors donc, Jardiner, un jeu d'enfant de Catherine Nuritsani et Agnès Audras à la Maison Rustique, Flammarion. Et cet ouvrage, qui est très joliment illustré, nous pouvons le répéter, coûte 105 francs. Alors, je pense que vous serez notre invité à la fête du livre l'an prochain, au mois de mai.
Mais je vous remercie.
Et que vous rencontrerez nos jeunes auditeurs.
Oui. Est-ce qu'il faut l'offrir aux enfants avant les vacances? Est-ce qu'ils peuvent en tirer un profit pendant les vacances? Ils vont à la campagne, ils peuvent
absolument
faire quelque chose?
Oui, parce qu'il y a toutes sortes de plantes qui se plantent en ce moment encore. Par exemple, vous parliez du radis. Il y a aussi, on peut planter de la ciboulette. Le radis se sème.
Ah,
on peut
bon,
planter
c'est...
de la ciboulette. On peut semer des fleurs encore, le cosmos, les soucis. On peut commencer à planter des pensées pour en avoir en automne. On peut planter les petits bulbes de crocus pour les avoir aussi à l'automne. Il y a des tas de choses à faire encore.
Alors, je me signale qu'on dit persil et non persil.
Persil. Oui, c'est voilà.
Ça dépend des régions, non?
Ouais, moi, je dis persil parce que je connais surtout sous la forme de lessive, en fait. Mais c'est autre chose. Et voilà, Madame Dame, un message. Votre invitée est une malfaiteuse.
Ah bon?
Qui veut faire du détournement de mineurs et empêcher les enfants de devenir citoyens en s'occupant d'Internet et de jeux vidéo.
Ah,
mais c'est vrai, ça.
Oui, ça
pendant
c'est
qu'ils
vrai.
Font du jardinage, ils ne regardent pas la télévision.
Oui,
alors
vrai.
Comment on va en faire des citoyens de ces enfants-là?
Moi, j'appellerais plutôt ça une bienfaitrice, mais enfin...
Malfaiteuse, j'aime bien.
Je
ne voudrais pas m'avancer, Cécilia, mais il me semble que c'était du deuxième degré. Oui. Voilà.
C'est tout. Je vais saluer les auditeurs.
Eh ben, je vous remercie.
Pour une fois que vous me donnez du temps, j'avais prévu d'être assez rapide.
Bien. J'aime ça.
Est-ce que je peux revenir le 9 août? Est-ce que ça vous convient?
Ça, vous verrez ça avec mon camarade Amiche qui assurera
tout le mois d'août.
Parce que je vais me reposer à la campagne.
Très bien. Alors,
où
bonnes
je ferai peut-être du jardinage d'ailleurs.
Et bonnes vacances aux auditeurs, puisque maintenant ils nous entendent de partout. Donc ceux qui sont en vacances peuvent continuer à nous suivre.
Merci Cécilia.
Merci à Catherine Nuritsani.
Et nous allons garder une voix féminine puisque je reçois maintenant le docteur, Bruce, le docteur Bruce.
Je ne suis pas docteur.
Vous n'êtes pas docteur?
Eh non.
Je croyais qu'à lire votre livre, j'avais vraiment l'impression que c'était un livre écrit par un docteur. Mais vous êtes une journaliste alors.
À force de les voir probablement.
Ah, c'est ça.
Il se passe un...
Alors, Madame Bruce, Simone Bruce, mais il y a un docteur ici qui est un docteur en physique qui s'appelle le docteur Bobola. C'est docteur en physique, merveilleux métier, qui m'échappe totalement, mais enfin on pourra en parler. Et votre livre, Simone Bruce, s'appelle Le Grand Tournant, Médecine, le Grand Tournant.
Oui.
Et c'est un livre extrêmement intéressant et tout à fait original parce que vous faites le point d'à peu près toutes les techniques les plus avancées, les plus originales, je dirais même les plus... Comment dire presque incongru, j'ai envie de dire, en matière médicale. C'est-à-dire tous les domaines de recherche, la médecine électromagnétique, enfin, tout ce qui est particulièrement innovant dans le domaine de la médecine, y compris d'ailleurs des choses qui ne sont pas encore reconnues.
Ben, ce qui est innovant, c'est de tourner le dos un petit peu à cette chimie qui s'est imposée pendant des dizaines et des bien plus que dizaines d'années et qui tout d'un coup est contrôlée par des appareils qui sont des appareils à base d'électromagnétisme qui mesurent justement les émissions vibratoires de ces produits chimiques.
Alors là, je me tourne tout de suite vers le docteur en physique, docteur Bobola. Est-ce que c'est pour couper court à l'avalanche de messages qu'on va recevoir probablement, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est sérieux de dire que des produits ont ce que Madame Brousse a appelé une des résonances vibratoires?
Tout à fait. Une molécule, c'est fait d'atomes. Les atomes sont faits d'électrons. Et donc, tout physicien sait qu'une molécule émet un message électromagnétique. Et pour comprendre vraiment ce que dit Madame Brousse dans son livre, il faut changer de cadre conceptuel et passer à la mécanique quantique, où on associe une onde à la matière. Et donc une molécule, c'est fait d'atomes, donc ça a une masse, mais ça a également une caractéristique ondulatoire. Et donc l'homéopathie est basée là-dessus. Donc si on essaye de comprendre l'homéopathie avec un réflexe de physicien ou de physico-chimiste matérialiste, on ne comprend pas. Par contre, si on prend en compte la nature ondulatoire de la matière, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus clair. Et c'est ce que la médecine, et que Madame Brousse développe très bien dans son ouvrage, la médecine non conventionnelle a essayé d'utiliser ces choses qui sont connues quand même depuis les années 20, puisque la mécanique quantique a été fondée dans les années 20. Et donc le grand tournant, c'est passer du monde matériel au monde ondulatoire.
Alors, est-ce que vous nous dites par conséquent que certains produits ont des capacités vibratoires, enfin, on peut être identifiés par leur vibration, c'est bien ça, je ne transforme pas
votre propos. Absolument.
Est-ce que ça veut dire que certains organes ou certaines défaillances organiques peuvent être constatées, vérifiées également par un contrôle électromagnétique de leur capacité vibratoire?
Mais exactement, et c'est la base de tout. Il y a un médecin allemand qui s'appelle le docteur Voll, ou qui s'appelait le docteur Voll, parce qu'il est décédé à 80 et quelques années, il y a quelques temps, et qui a eu l'idée, géniale à mon avis, de vouloir vérifier ce qui se passait dans l'acupuncture. C'était un médecin dont une personne très proche était malade, et l'acupuncture marchait. Il a voulu comprendre pourquoi. Et vous savez que les Allemands sont très tournés justement vers le côté scientifique des choses, y compris dans la médecine la plus poussée. Et il a travaillé avec un ingénieur. Et c'est l'introduction des ingénieurs en médecine qui a permis d'arriver à ces avancées actuelles. C'est-à-dire qu'on a eu affaire à des techniciens purs et durs, qui eux n'étaient pas médecins, mais qui ont contrôlé par des appareils qu'ils ont mis au point la valeur électromagnétique des produits médicaux, des produits pharmaceutiques, des produits phytothérapiques et autres, car Monsieur Bobola a parlé d'homéopathie, mais on contrôle aussi l'allopathie. L'allopathie a aussi ses longueurs d'onde.
Et est-ce qu'on peut dire, pour essayer je dirais pas de simplifier, mais enfin, pour essayer de donner une vue globale, inscrire votre démarche d'auteur et d'auteur compilateur, en quelque sorte, puisque vous compilez des techniques que vous avez étudiées, est-ce qu'on pourrait dire que, au fond, les phénomènes que vous évoquez ne sont jamais qu'un des aspects de phénomènes qu'on peut vérifier et qu'on peut voir très facilement. Je veux dire que quand quelqu'un se brûle, par exemple, il y a une tache rouge, et ça, c'est une manifestation vibratoire aussi, la brûlure.
Exactement.
Mais c'est une vibration qu'on peut, c'est une manifestation vibratoire qu'on peut voir avec les yeux parce que ça rentre dans le spectre de la lumière visible.
Exactement, mais un éternuement est une chose vibratoire.
Ça c'est clair, oui. Mais ça veut dire qu'au fond, vous ne, il y a pas de caractère, ça n'a pas un caractère révolutionnaire de d'étudier les vibrations des organes et des produits. C'est tout simplement un accroissement du champ de vision. C'est-à-dire, ce qu'on ne peut pas voir avec les yeux, on peut le voir avec des engins qui, eux, saisissent des aspects de la réalité qui ne sont pas visibles ou qui ne sont pas audibles ou qui ne sont pas odorants ou qui, même qui ne sont pas palpables.
Oui, mais je voudrais tout de suite, nous sommes sur un poste de radio, mettez votre main sur le poste de réception de la radio, vous sentirez les vibrations. C'est quelque chose d'extrêmement simple. Et je voudrais en profiter pour dire que dans mon livre, les explications sont faites en des termes extrêmement simples, parce que il est extrêmement intéressant d'avoir des explications d'un haut niveau scientifique, mais moi, ce que je fais, c'est de la vulgarisation scientifique. C'est-à-dire, il faut que les gens comprennent en quelques mots, et je crois que pouvoir dire que c'est ce qui se passe dans ces livres.
Alors là, je vais par exemple un auditeur qui téléphone, il y a urgence qu'il lise votre livre, parce que même peut-être il pourrait demander des cours particuliers au docteur Bobola, parce que il nous dit, à part le carton ondulé et la coiffure de ma femme une fois par semaine, je n'ai pas remarqué que le monde soit devenu ondulatoire récemment. Pourriez-vous préciser et prouver un peu vos affirmations qui semblent relever d'un sketch comique? Je peux inviter ce monsieur à lire les travaux de Breuil, par exemple. Hein?
Il peut lire les travaux du professeur de Breuil, mais par exemple, je vais vous citer quelque chose de très simple, le papillon. Le Bombyx mori, il est capable, pour la femelle, elle émet une substance qu'on appelle une phéromone.
Phéromone, oui.
Et le mâle, lorsqu'il est en contact au niveau d'une partie de son antenne qui est un récepteur, lorsqu'il est en contact avec cette substance, il va venir rejoindre la femelle et la reproduction se fait.
Et ça va jusqu'à 5 km.
11 km.
11 km.
Donc vous imaginez, la version officielle, c'est de dire que ces molécules sont portées par le vent.
Par le vent, oui. Elles savent que c'est un vent, ce qui est
imaginez, calculer la probabilité, ouais. Les auditeurs peuvent le faire,
parce que
telle chose se passe.
Hein, le bombyx femelle fait à peu près 6 cm de long, dans sa meilleure forme. Le bombyx mâle doit être, comme d'habitude, un peu plus petit. Et la partie de l'antenne qui agit doit présenter à peu près 1 mm carré.
Voilà.
Hein? Donc à 11 km, vous envoyez un animal qui fait 6 cm de long, envoie un parfum qui est porté par le vent, qui va atteindre le récepteur de l'animal qui est à 11 km de là, récepteur qui fait 1 mm carré. Ça, c'est déjà très étonnant. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'en sentant l'odeur porté par le vent, le papillon se dit, tiens, à 11 km de là, dans un azimut de 14°28, il y a une femelle qui est prête à me rencontrer. Allons-y. Ça, c'est plus fort que de jouer au bouchon. Hein.
Alors, vous avez poursuivi le raisonnement de façon très brillante, et donc, il y a donc une téléaction. Il y a une nature ondulatoire. Votre auditeur, quand il écoute son poste de radio, qu'est-ce qu'il fait? Il va sélectionner une onde. Mmh. Ça serait la même chose de dire que finalement, la personne qui fait l'émission de radio, comme vous, est diluée dans des millions de mètres cubes, et donc c'est pas possible.
Voilà.
Bon, alors vous voyez très bien.
Je ne veux pas que l'auditeur croit pour autant que ce que j'envoie par la radio, ce sont des appels à
non, pas du tout.
Il faut que ça soit bien clair. Hein. C'est pas, il n'y a pas de tentation reproductrice.
Donc on arrive à la conclusion que le Bombyx mori qui se porte bien, puisque le papillon n'a pas disparu, pour qu'il puisse se reproduire, il faut qu'il y ait une onde électromagnétique.
Mais d'ailleurs, quand un garçon téléphone à une fille pour lui donner rendez-vous sur son portable, c'est un peu...
C'est une histoire d'onde.
Ah, mais parce qu'il envoie un message, il ne sait pas forcément où est sa petite amie au bout de son portable.
Donc il n'y a pas d'émerveillement,
ouais. Non.
Il y a une double nature.
Donc monsieur, je vous rassure, ça n'intéresse pas que la chevelure ondulée de madame. Et si je peux me permettre un conseil, vous devriez l'emmener voir un coiffeur visagiste, parce que les coiffures ondulées, c'est un petit peu dépassé maintenant. Depuis 1930, je crois. Voilà. Sans vouloir offenser quiconque et en toute sympathie, je voudrais dire qu'il y a tant de sujets importants à traiter que le temps consacré aux fleurs et aux légumes me court un peu sur le haricot. Voilà. Après cela, on dira que M. Beckett n'est pas toujours courtois. Ça, c'est un ami qui téléphone ça, mais j'espère bien que les raisons pour lesquelles on mène le combat politique, c'est aussi les fleurs et les légumes, vous voyez. Ça fait partie du combat. Un auditeur pose une auditrice nous dit, est-ce que avec la technique dont vous parlez, on peut déterminer l'adéquation d'un médicament avec non seulement une pathologie, mais aussi un malade.
Exactement, ça s'appelle du reste, on étudie la compatibilité du médicament par rapport au malade et à son cas. Et ceci a permis de démontrer que chaque malade a ses propres réflexes, ses propres effets par rapport à un médicament donné, et que donc on peut faire une erreur magistrale en prescrivant à un malade quelque chose ou un produit qui est officiellement destiné à guérir, entre guillemets, sa maladie. Parce que ce qui marchera avec l'un ne marchera pas avec l'autre.
Alors, ça, pratiquement, comment ça se passe? Quelle est la technique qui permet d'évaluer l'adéquation d'un produit avec la maladie d'un certain malade, une certaine maladie d'un certain malade?
Voilà comment les choses se passent. Il s'agit de tests de résistivité. Le docteur Voll, le médecin allemand dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui a étudié l'acupuncture chinoise, s'est aperçu, grâce aux ingénieurs avec lesquels il a travaillé, qu'il émane de l'arrivée des méridiens d'acupuncture qui se trouvent dans les angles des ongles, des mains et des pieds. Il arrive donc des émissions qui sont venues, qui ont comme point de départ
un organe. Qui sont quantifiables et figurables.
Exactement.
On peut les figurer.
Alors, le malade est mis en contact avec l'appareil donc électromagnétique. On envoie, alors le médecin tient une électrode, le malade tient une électrode, les deux étant reliés à l'appareil. On envoie une onde extrêmement faible, qui est de la nature de 1 volt, je crois, sur le point de l'arrivée d'acupuncture dont on sait qu'il est tel ou tel organe. Il y a un cadran sur lequel se déplace une aiguille et on voit quelle est la résistivité de l'organe au courant émis. Et à ce moment-là, le cadran est, chiffré de 0 à 100, ce qui a été fait à partir de gens en très très bonne santé. Et on sait que l'équilibre, on a donc remarqué que l'équilibre est à 50. Si sur le cadran, l'aiguille s'arrête avant 50, il est estimé, parce qu'on a fait des essais sur des dizaines et des centaines de milliers de cas, qu'il s'agit d'une maladie dégénérescente. Si au contraire ça dépasse beaucoup 50, c'est une maladie
inflammatoire,
exactement. Donc à partir de ça, on fait déjà un bilan assez général, et ensuite on met dans la main du malade un produit, et c'est là qui a été la grande découverte du docteur Voll, qui a été une découverte tout à fait faite par hasard, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que l'appareil enregistre la différence de longueur d'onde lorsque le produit est entre les mains du malade.
Ça, c'est quand même, pardonnez-moi de vous dire, c'est extravagant, parce que ça tendrait à prouver, alors que c'est pas la peine d'absorber le produit, il suffit de se balader avec dans un petit sachet sur son cou un cachet du produit en question, et ça fait le même effet.
Eh bien, écoutez, je vous remercie de le dire, et je vous félicite, car vous allez encore plus en avant, et actuellement, il y a des produits qu'on présente sous forme de patch. Et alors c'est encore plus extravagant, parce que actuellement ces produits sont à l'étude. Je ne vous dis pas que tout le monde est convaincu, mais si on veut bien être, correct avec la façon de penser actuellement en cours, c'est-à-dire de s'incliner devant les constats, eh bien il paraît que dans certains cas, le patch fait qu'au travers de la peau, la longueur d'onde du produit qui est dans le patch traverse la peau, et à ce moment-là fait un effet d'autant plus intéressant qu'il peut faire un effet local. C'est-à-dire que on peut faire pénétrer, par exemple, au niveau du foie, un produit qui est favorable au foie, sans que le corps entier en soit imprégné.
Imprégné, oui, c'est-à-dire, donc ça évite les effets secondaires. par exemple.
Ça peut
être. Si on imagine un produit, un produit contre les rhumatismes, par exemple, ou qui guérit les rhumatismes ou qui apaise les douleurs rhumatismales, en général, l'inconvénient, c'est que ça provoque d'épouvantables douleurs gastriques, si bien qu'on se demande toujours ce qu'on va faire, est-ce qu'on va choisir le rhumatisme ou le mal d'estomac.
Alors, je crois que vous en savez beaucoup plus que moi, mon cher confrère.
J'en subis plus que vous, probablement.
Mais ce n'est pas moi qui, mets sur le devant de la scène le patch. J'ai tout simplement, en tant que journaliste, assisté il y a à peu près un mois en Belgique à la présentation par un laboratoire canadien de patch dont un est soi-disant contre le cancer. Et en tout cas favorise la défense du cancer parce que il permet de lutter contre le papillomavirus qui est un germe pathogène qui induit des cancers, je crois, vaginaux, il me semble.
Vaginaux, au sein aussi.
Au sein aussi, oui. Donc, il paraît qu'ils ont de très bons résultats prouvés puisqu'ils le diffusent sur en Europe après l'avoir diffusé aux États-Unis. Et un autre produit est favorable au diabète, à la lutte contre le diabète. Et je crois que ça peut aussi rendre des services si tant est que les conditions ont été requises pour le mettre officiellement sur le marché avec une autorisation de mise sur le marché.
Alors, je me tourne vers la science, si j'ose dire. Est-ce que c'est cohérent avec les enseignements actuels de la physique?
Tout à fait. Alors, le problème, c'est qu'il faut un troisième souffle au niveau de la médecine. Il faut que la médecine et la biologie intègrent les données de la physique. C'était d'ailleurs les idées des pères fondateurs de la mécanique quantique, en particulier Niels Bohr, qui était prix Nobel, et qui lui pensait que la physique devait intégrer la biologie pour essayer de donner un nouveau souffle à ceci. Alors, pour reprendre un peu les propos de Madame Bruce, Cyril Smith, qui est un physicien qui travaille en Angleterre, a montré que c'est une personne qui présente une allergie. Si on trouve la longueur d'onde qui correspond à l'allergie, on peut déclencher à distance cette allergie. Et c'est ce qu'il a fait. Il a montré comme ça qu'en envoyant une longueur d'onde d'une fréquence bien déterminée, la personne déclenchait une crise d'allergie. Alors ça se traduit comment ?
Sans aucun contact avec l'allergogène,
c'est l'onde qui va agir au niveau des cellules qu'on appelle des basophiles, qui vont provoquer une dégranulation, libérer des substances et qui vont provoquer.
C'est stupéfiant, ça.
Ah bah oui. Alors,
est-ce tout que ça veut dire qu'on peut faire le contraire aussi?
Ah bah exactement. Alors, dans la lignée, il a trouvé, un peu comme le docteur Vol, ceci par hasard, puisqu'il constatait que certains de ses collègues, quand ils passaient devant un ordinateur, avaient une intensification de leurs problèmes allergiques. Donc, il a essayé de comprendre, et comme c'était un électronicien de formation, il a commencé à dire, peut-être c'est une hypothèse. Et comme il a été rigoureux, cette hypothèse...
C'était pas un plombier, voilà. Parce que ça n'aurait vraiment servi.
Il a fait des études, et puis dans la lignée, vous avez tout à fait compris, il comprend très vite. C'est-à-dire que ce qui provoque le problème, d'un point de vue ondulatoire, peut être réglé également, d'un point de vue ondulatoire, par une onde.
Alors, on a compris la technique. Maintenant, d'après vous, Madame Rousse, dans quel délai ces thérapeutiques seront-elles, je ne veux pas dire commercialisées, popularisées, répandues dans le public?
Ça dépend de l'intelligence des donneurs d'ordre.
Bon, ça va. Donc là, on est tranquille, on va pouvoir dormir un bon moment.
C'est pas moi qui le dis.
Non, c'est moi. Vous savez qui est notre ministre de la
Médecine. Monsieur le docteur Vol a fait sa découverte il y a plus de 40 ans. En Allemagne, où ça a très bien marché. Il y a des milliers de médecins en Allemagne qui s'en servent. Maintenant, aux États-Unis aussi. En France, il y en a 2 ou 3. Et je dois dire que le docteur Vol est venu lui-même en 1971 proposer ses appareils et les montrer à la Société de biothérapie. Et puis, jusqu'à présent, la France attend que les choses se passent.
Peut-être que ça a à voir avec la dictature des laboratoires, on ne sait pas, on peut imaginer n'importe quoi. Je répète toujours cette phrase d'un des frères Lumière, je ne sais jamais lequel, qui disait « En France, le cancer fait vivre plus de gens qu'il n'en tue ».
C'est le professeur Maté.
C'est Maté. Alors, il l'a repris de Lumière, parce que je sais que c'était un des frères Lumière qui avait dit ça, et je trouve que c'est une très très bonne explication. de ce qui se passe avec Beljanski, de ce qui s'est passé avec tant d'autres. Alors, il y a une insistance particulière à vous interroger sur l'eau violet. Pouvez-vous dire un mot de l'eau violet ? Qui pourrait dire un mot de l'eau violet ?
Eh bien, l'eau violet, c'est une eau qui est électro-vibrée, c'est-à-dire qu'on a un petit appareil. Alors là, ce qui paraît également absolument extraordinaire, c'est qu'on s'est rendu compte que là, il y a un diélectrique qui est fait avec de la cire d'abeille, et il paraît que, je m'adresse à Monsieur Bobola, que la cire d'abeille, il faut qu'elle soit une cire d'abeille véritablement sauvage pour avoir toutes ses qualités de transmetteur électromagnétique.
Tout à fait. D'ailleurs, les zoologistes ont abordé ce problème, les spécialistes des abeilles. Regardez, l'abeille, elle doit se défendre contre des attaques.
Mmh.
Et donc la cire d'abeille, on comprend mieux son utilité en tant que matériau, mais également en tant qu'émetteur d'ondes.
Transmetteur
d'ondes.
Oui, parce que enfin, moi, on aurait plutôt l'impression, connaissant enfin, quand on voit la nature même, la nature tactile de la cire d'abeille, que c'est un absorbeur d'ondes, que ça doit servir d'écran plutôt, non ?
Les ondes. Peut-être absorbeur et retransmetteur.
Les deux. Vous savez.
En tout cas, il faut que ça soit des abeilles sauvages. Des abeilles sauvages. C'est pas celles qui vous attaquent sauvagement.
L'émission, ça vient comme ça, sans embêter nos auditeurs. Une onde arrive, elle va frapper un atome, des électrons vont être portés à un niveau quantique élevé. Et en redescendant à un niveau fondamental, ils émettent une émission. Donc il y a toujours une absorption et une émission.
Il y a un mot qu'il faudrait... Enfin, deux mots, entre autres. Qu'est-ce que c'est qu'un niveau quantique et qu'est-ce que c'est qu'un niveau...
Alors, un niveau quantique, la matière, elle est faite d'atomes. Et ces atomes sont faits d'un noyau qui contient des protons et des neutrons. Et autour de ce noyau gravitent des électrons qui sont quantifiés au niveau de leur niveau énergétique. C'est-à-dire que l'énergie n'évolue pas de façon continue, mais de façon discrète. Donc vous imaginez des barreaux d'échelle, et un électron, quand il reçoit une onde, il peut passer du barreau d'échelle numéro 1 au barreau d'échelle numéro 3.
C'est-à-dire qu'il se charge d'énergie ?
Il se charge d'énergie, il y a une interaction entre la lumière et l'électron, de l'énergie est apportée, l'électron il a une énergie de liaison, le photon ou la lumière en arrivant sur ce niveau va donner à l'électron une impulsion, il va monter à un niveau supérieur. Et il va redescendre, puisqu'il y a un principe fondamental, c'est que la matière revient toujours à son niveau fondamental.
Est-ce que c'est comme ça que, on sort du sujet, mais c'est ça la technique de la fission, de la fusion nucléaire. On envoie de l'énergie sur des électrons, on les porte à un niveau quantique tellement élevé qu'ils finissent par quitter leur...
Voilà, les plasmas, par exemple, quand vous avez des très hautes températures, vous n'avez plus que des noyaux.
Vous voyez, si j'avais eu un prof de physique comme vous, Monsieur Atrope, c'était bien gentil, mais il était moins intéressant quand même, je veux dire. J'aurais peut-être compris, je ne sais pas, on ne sait pas.
Alors, je voudrais simplement ajouter une petite chose, c'est que l'eau Marcel Violet, c'est une eau qui est structurée. Et c'est ça qui est important, parce que la qualité d'une eau, ça vient aussi de sa composition en minéraux, mais également au niveau de sa structuration. Et là aussi, on est sur un terrain sablonneux, puisqu'on rejoint un peu la mémoire de l'eau, Benveniste, etc. Donc c'est pas bon.
Vous êtes en train de provoquer des crises cardiaques du côté de Saint-Germain. Si vous parlez de Benveniste et de la mémoire de l'eau, alors là, on n'est pas sorti de l'auberge. Un jour, on fera quand même une émission sur la mémoire de l'eau. Vous viendriez ?
Ah ben moi, je veux bien, mais il y a plein de travaux qui montrent... La mémoire de l'eau, c'est peut-être un terme impropre, mais disons, l'eau peut interagir... En termes de cluster, de paquets, et donc ce qu'on appelle une eau structurée, c'est une eau où un certain nombre de molécules interagissent ensemble. Et c'est ça qu'on appelle la mémoire de l'eau.
D'accord. Ça ne veut pas dire que quand je bois un verre d'eau, je bois peut-être de l'eau dans laquelle Hitler a fait pipi.
Ah non, pas du tout.
Bon, ça me rassure. Merci, Madame Brousse. Alors, votre livre, je le rappelle, s'appelle « Médecine, le grand tournant ». Il est paru aux éditions du Dauphin. Il coûte 129 francs. Et il est, c'est la présentation d'un livre, mais ça évoque plus la technique du journalisme.
Je suis une journaliste.
Voilà, vous êtes une journaliste, c'est pour ça. Et en l'occurrence, il faut le prendre comme un compliment. Pour une fois, du bien des journalistes, il faut en profiter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de photos, il y a des encadrés, ce qu'on appelle en termes de presse des encadrés, c'est des paragraphes courts, avec des questions un peu, comment dirais-je, enfin des titres un peu amusants, des questions un peu perfides, on peut dire. Non, pas forcément perfides, des questions... on a envie de le lire, voilà. C'est attirant, c'est une succession...
Des bonnes questions.
De bonnes questions. Par exemple, un titre, un Américain s'acharne à vouloir faire réentendre un sourd, la découverte de David D. Palmer. Ou alors encore, il y a une interview de Benveniste, j'ai l'impression, il y a en tout cas un entretien avec Benveniste. L'alimentation de notre énergie quotidienne pour rééquilibrer les déséquilibres. Alors, toutes les questions relatives à la médecine, à la santé plus exactement, sont évoquées. Et même à la fin, il y a quelques adresses pour en savoir plus.
Il y a beaucoup d'adresses.
Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adresses, d'associations, de fabricants de produits,
de
livres, de titres de bouquins, de revues. Oui, c'est un vade-mecum de la bonne santé par l'électromagnétisme. On pourrait dire ça comme ça. Vous voyez, je vais avoir besoin de vos services.
Avec plaisir.
C'est gentil, Simone Brousse, merci.
La médecine,
le grand tournant, c'est une enquête publiée aux éditions du Dauphin.
Je voudrais dire que c'est en termes simples.
Oui, bien sûr. Autrement, vous n'auriez pas été
invité. Non, mais moi, parce que moi, il faut que je comprenne pour expliquer.
Mais
donc,
moi aussi, c'est ça.
Voilà.
C'est encore plus difficile, pour ne rien vous cacher. Il y a même des moments où c'est dramatique.
Attendez une seconde pour répondre à cette
Cécilia.
Qui demande les références complètes du livre dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, il s'agit de Jardiner, un jeu d'enfant, de Catherine Nuritsani, chez Flammarion, au prix de 105 francs. Et à ce monsieur qui n'aime pas qu'on parle de jardinage, je voudrais rappeler que Saint-Exupéry disait volontiers « J'avais une vocation de jardinier ».
C'est très joli. J'aime bien Saint-Exupéry quand il ne fait pas de politique. Merci, monsieur Bobola.
Merci à vous.
Simone Brousse.
Merci.
Et on change complètement de sujet. Je me tourne vers Jacques Borde, qui vient de publier aux éditions du Alpha un livre assez sensationnel, il faut le dire, quand même, qui s'appelle « Un crime de guerre américain », le vol 655 Iran Air. Alors, vous nous expliquez, pour résumer le bouquin, mais il est bourré de faits, de preuves, si j'ose dire, en tout cas de ce qui ressemble fort à des preuves, que l'avion de Iran Air, le vol 655 d'Iran Air, l'Airbus, qui a été missilisé, vaporisé par un missile américain, tiré depuis le USS Vincennes le 3 juillet 88, et bien que cet avion a été abattu volontairement par les Américains.
Oui, tout à fait. Et là, je vous remercie de m'inviter parce que, curieusement, je pense que je suis d'accord avec vous, c'est un livre qui remet en cause pas mal d'explications. C'est pour l'instant la seule radio qui a manifesté un intérêt pour ce livre, donc je vous en sais gré. En vous faisant remarquer un petit détail, vous avez repris une des erreurs qui est colportée délibérément par les Américains en disant que c'est un missile. En fait, c'est deux missiles. On a assisté dans cette affaire à un double tir fait par un croiseur de lutte antiaérienne qui, dans des conditions optimum de fonctionnement, puisque c'est une classe de bâtiment qui a été inaugurée avec le USS Ticonderoga, a été développé pour pallier aux carences jusqu'alors des navires de défense de la flotte américaine et qui est chargé de sa protection contre toute attaque aéroportée, que ce soit missile, bombe ou autre. Et donc, on se trouve, c'est un peu le combat de David contre Goliath inversé, c'est-à-dire que vous avez un petit appareil, un Airbus A300, A320, qui décolle de l'aéroport de Bandar Abbas pour aller à Dubaï, et qui se fait tirer comme un lapin par un navire de guerre américain évoluant qui plus est dans les eaux nationales iraniennes et non point dans les eaux internationales. Et là, j'en viens au fait que pourquoi il y a énormément d'éléments techniques et précis autour de ce livre, c'est qu'en règle générale, quand on aborde ce genre de sujet, le réflexe, c'est de vous dire, vous racontez n'importe quoi, c'est de la propagande, vous reprenez les thèses en vogue à Téhéran, et donc, finalement, les Américains sont de braves garçons qui ne commettraient jamais ce genre de forfait. Et en fait, toute notre approche a été de reprendre point par point dans la partie qui est consacrée techniquement à l'affaire, la destruction même, l'argumentaire des Américains qui, d'une succession de démentis, ils ont dit c'est une bavure, c'est la faute des Iraniens, on s'est trompé, et on reprend donc point par point les arguments des Américains pour les démonter un à un.
C'est la fameuse histoire du « c'est pas moi, je l'ai pas fait exprès, je recommencerai pas ».
C'est à peu près ça, c'est, voilà. c'est une des explications. C'est la dernière, c'est la dernière tranchée dans laquelle se sont installés les Américains pour défendre leur thèse, sachant qu'ils ont même essayé à un moment de retourner l'argumentation, de dire...
C'est l'avion qui avait tenté d'abattre un missile en se jetant dessus.
Oui, non, c'est plus précis que ça, c'est-à-dire que la thèse américaine, c'est de dire, en fait, nous étions attaqués par un avion de guerre, un F-14 Tomcat, qui est un avion de construction américaine, que les Américains connaissent bien, parce que c'est eux qui le fabriquent. Le seul utilisateur du F-14, c'est l'US Navy. Donc on peut dire que les techniciens du Vincennes le connaissent, puisque ce sont les appareils qui sont chargés de le protéger en dernière ligne. Et non seulement les Américains le connaissent, c'est eux qui les ont peints, c'est eux qui ont même peint sur ces avions les signes distinctifs de l'aviation iranienne. En feuilletant le livre, on s'aperçoit que c'est un appareil biréacteur à double empennage qui n'a aucun rapport avec un appareil de ligne. Donc ça, c'est la thèse qui ne tient pas debout. L'argument des Américains pour dire « nous avons été attaqués », c'est que l'équipage du Vincennes prétend qu'il a perçu une attitude menaçante de la part de l'Airbus. Le seul problème, c'est que les Américains n'étaient pas les seuls dans la région. Il y avait tous les contrôles aériens de la région. Il y avait celui de Mascate, celui de Bandaraba, celui de Mascate, on va dire, d'accord, ce sont des orientaux, mais il se trouve que l'équipe technique qui assurait le contrôle aérien de l'aéroport de Mascate à l'époque était une équipe de la Panam. Donc eux-mêmes des Américains. Qui n'ont pas constaté que l'Airbus était une menace, vu qu'il était en phase ascendante de décollage. Il y avait également un navire de guerre électronique britannique, la HMS Beaver, qu'il a aussi perdu en phase de décollage. Et pour finir, il y avait aussi un autre navire de guerre américain, l'USS Sight, qu'il a également perçu en phase de décollage. Donc, curieusement, l'équipage du Vincennes, ça fait quand même plusieurs centaines de techniciens qui sont affectés à cette tâche de la veille radar, du tir et du lancement, auraient tous eu des visions. Qui ont été confirmés par visiblement leur commandant, le commandant Will Rogers, et ils ont abattu cet avion. En fait, on s'aperçoit que plus on avance dans l'examen des faits, plus on s'aperçoit que les Américains, en fait, ont totalement monté cette affaire et qu'ils l'ont monté de manière délibérée. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire ce livre? En fait, c'est très simple, c'est qu'à l'époque, une de mes relations de travail actuelles travaillait effectivement pour la Paname dans la région. Et que se passe-t-il? Comment se présentent les événements? C'est-à-dire que subitement, tous les contrôles aériens voient disparaître un avion de leurs écrans, qui n'ont pas perçu comme une menace, mais comme un avion de ligne qui décollait. Ils n'ont perçu aucun des soi-disant messages d'alerte qu'ont lancé les Américains en direction de l'Airbus. Seuls les Américains du Vincennes l'ont entendu, personne d'autre l'a entendu à part eux. Et donc, vous voyez tout à fait la phase d'inquiétude, vous avez un avion de ligne qui disparaît, donc tous les contrôles aériens commencent à discuter entre eux, à s'échanger des fax, et le contrôle aérien de Mascate, qui était dirigé par l'époque par un monsieur Gallagher, un contact fax ou radio, je ne sais plus, avec les autorités américaines présentes à Mascate, je crois que ça devait être l'ambassade, et alors que tout le monde est affolé et apparemment est dépassé par les événements, la réaction en substance est « ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, c'est une opération qui est en cours depuis un bon moment, mais tenez-nous au courant, on collecte les informations ». Donc on s'aperçoit que dès le début, il y a deux champs d'explication. L'accident, la bavure, je ne sais pas comment on commet une bavure avec des missiles, mais bon. Et en fait, on s'aperçoit...
C'est comme les policiers, c'est en rengainant son missile que le coup est parti tout seul.
Sans doute, oui, ça doit être ça. Et donc, il y a donc deux explications. L'explication officielle des Américains, de dire, bon, c'est pas ce qui s'est passé au début. Et la réalité, en fait, c'est apparemment une opération qui est planifiée, qui est délibérée, et qui correspond, en fait, à la situation géopolitique du moment. Qui est tout simplement que les Américains en 88 sont extrêmement embarrassés par la tournure que prend la guerre en Irak. Pourquoi? Parce que d'abord la guerre ne prend pas le chemin voulu, c'est-à-dire que l'Iran résiste, l'Irak tout en poursuivant ses opérations devient une nation de plus en plus puissante militairement. D'ailleurs, quelques années après, on s'est bien empressé de casser l'Irak. Donc les Américains ne sont pas tellement satisfaits. Ils voudraient que les Iraniens s'assoient à la table des négociations. Comme à cette époque, les Iraniens ont mené une série d'offensives, notamment au niveau de FAO, sont plutôt dans une phase ascendante. Donc les Iraniens ne sont pas du tout pressés de s'asseoir à la table des négociations. Le geste américain est très simple. Ça consiste à envoyer un message clair, fort et clair, c'est-à-dire effectivement, nous voulons que vous négociez à nos conditions, et la guerre a assez duré, le message étant, ben voilà, voilà ce que nous sommes capables de faire en toute impunité, de tuer 300 personnes, c'est un message d'avertissement. Et effectivement, on s'aperçoit que la guerre du Golfe n'a pas duré un an de plus.
Et quelles sont les réactions, alors, à cette affaire?
Alors, le problème des réactions, il y en a divers. C'est-à-dire qu'il y a la communauté internationale, ou plutôt ce qu'on appelle la communauté internationale, à mon avis, porte même une part de responsabilité dans cette affaire, parce que la situation régionale est que nous avons donc le Golfe Persique, il y a une guerre entre donc deux États riverains qui sont l'Iran et l'Irak, et il y a quand même à ce moment-là un certain nombre d'intervenants, y compris d'ailleurs Mikhail Gorbatchev, qui est le dirigeant de la Russie de l'époque, que les Occidentaux trouvent très bien quand il s'agit effectivement de démanteler la puissance soviétique qui leur fait un peu de l'ombre. Mais curieusement, quand le même Gorbatchev dit que la présence d'une flotte américaine et de flotte occidentale à proximité des côtes iraniennes et des pays du Golfe est une menace potentielle, là personne ne veut le croire. Que demandaient les Russes à l'époque? Ils disaient ben, tant qu'à avoir des puissances navales, il faudrait que ce soit des pays neutres. Eh bien, le conseil n'a pas été suivi, et on s'aperçoit d'une chose, c'est que si on se réfère à d'autres affaires d'incidents aériens, comme on les appelle dans la phraséologie du droit international dans cette affaire, qu'on prenne Lockerbie ou d'autres, l'affaire n'est pas traitée de la même manière. C'est-à-dire qu'au point de vue des chancelleries occidentales, aucun État ne remet en cause la position des États-Unis dans la région. Aucun État ne me demande que les responsables soient traqués ou même recherchés. Et même aux États-Unis. Et donc, il y a effectivement un traitement de cette affaire qui est de la minimaliser. Bon, on voit l'affaire Lockerbie qui a fini par déboucher sur un procès géré par la justice écossaise, mais aux Pays-Bas. Là, pour cette affaire, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de motion des Nations Unies, parce que ce sont des Iraniens, donc les ennemis des Américains et de leurs alliés, qui se font descendre en appareil. Donc, effectivement, il y a deux traitements de l'information, et on peut dire qu'il y a une co-responsabilité des États liges de Washington, dans la mesure où, quand tout le dispositif naval qui va déboucher sur cet incident se met en place, on ne dit rien. Et à chaque fois qu'il y a eu des incidents dans la région, parce que ce n'est pas le premier, on ne dit jamais rien. Il y a un exemple qui est assez significatif. Un beau jour, pendant la guerre en Irak, les Américains disent « ça y est, on a intercepté une barge, une petite barge iranienne qui mouillait des mines ». Alors, quelle est la réaction des journalistes? C'est-à-dire, ben c'est très bien, on pourrait peut-être voir votre barge et vos Iraniens. Ah, les Iraniens, désolé, on les a déjà remis à la Croix-Rouge pour ce qu'ils rentrent chez eux.
Bon, je suis obligé de vous interrompre parce que c'est passionnant, mais malheureusement l'horloge tourne plus vite que nous, et puis en plus il faut donner aux auditeurs la possibilité de lire votre livre, qui est remarquablement fait. C'est un travail très très sérieux, en apparence en tout cas, pour ce que je peux en juger, et il y a un signe du sérieux de ce travail, c'est qu'il y a un index qui est très complet, et je fais partie des gens qui considèrent qu'un livre sans index, c'est à peu près un livre qui n'existe pas quand il s'agit de ce genre de sujet. Donc ça s'appelle un crime de guerre américain, vol 655 Iranair. N'espérez pas en entendre parler à la télévision ou à la radio, je serais bien étonné que ça marche. C'est illustré, c'est très très complet, c'est écrit en journaliste aussi.
Tout à fait.
Et c'est paru aux éditions du Alpha, ça vaut 125 francs, et je signale que Jacques Borde est historien, spécialiste des questions internationales, journaliste de la presse multimédia, et rédacteur en chef de la revue du Alpha. Merci Jacques Borde.
C'est moi qui vous remercie.
Des messages, Cécilia.
Monsieur l'abbé Daniel Joly, Bernard Faribault et Joël Lemaire dédicaceront leur livre « L'essaim du métro », publié aux éditions Clovis, à la librairie Saint-Nicolas, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e, le samedi 22 juillet de 14h à 19h. Et ensuite, on pourra naviguer vers une autre dédicace d'un ami, n'est-ce pas, Jacques Duperron, qui signera à la librairie du Ken, le même jour de 15h à 19h, son livre « Journal d'un homme de droite » aux éditions Godefroy de Bouillon. Et là, on indique le prix, 160 francs.
Merci Cécilia d'avoir remplacé Victoria. Je vais vous laisser pour quelques semaines là, pour aller me reposer un petit peu. À la rentrée, si Dieu veut, nous inaugurerons une nouvelle série de, enfin une série de quatre émissions, enfin de quatre chroniques qui seront consacrées à nos ancêtres les Gaulois et axées sur la vie des Gaulois. Ça sera présenté par Bernard Jacquelin, qui est un spécialiste de ces questions, et nous traiterons la première semaine, donc dès le 20 septembre, de la vie quotidienne, familiale et économique, c'est-à-dire l'artisanal, en quelque sorte, des Gaulois. En deuxième semaine, la vie militaire, politique et royale de nos ancêtres les Gaulois, le 18 octobre. Le 22 novembre, la vie culturelle, religieuse et spirituelle. Et le 20 décembre, nous consacrerons l'émission à l'origine de Paris et de la fleur de lys. Ce sera un sujet, je pense, intéressant. Je souhaite de bonnes vacances à ceux qui en prennent. J'envie ceux qui n'en prennent pas. Et je vous dis à la rentrée, que Dieu nous garde.